Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'abord d'être présent. Je vais juste faire un petit point logistique avant qu'on commence cette rencontre. Elle est enregistrée en direct par Studio Zef. Ça veut dire que si vous souhaitez prendre la parole, intervenir à un moment donné durant cette rencontre, il faudra bien que cela soit enregistré et donc que vous parliez dans un micro. Voilà, après, ça nous permettra aussi de pouvoir réécouter la rencontre sur Studio Zef en podcast et de la partager autour de vous si vous le souhaitez. Et un grand merci à Clémentine pour cette captation. Donc, si on passe vraiment au cœur du sujet, cette soirée pour nous, c'est un peu une joyeuse compilation de différentes premières fois. Pour l'Instant Pop et pour la Fondation du Doute, c'est la première fois qu'on participe à la programmation de la semaine L, coordonnée par la ville de Blois. Donc, si vous êtes présent ici, vous savez sans doute que le thème de cette semaine L 2025, c'est femmes d'influence, femmes de pouvoir. Influence, pouvoir, ce sont deux notions qui peuvent parfois nous amener à performer notre genre pour l'exercer. Par là, j'entends qu'on va adopter un rôle en se confortant à des normes bien établies. Pour vous donner un exemple, Elsa Dorlin, une chercheuse, parlait de masculinité mascarade pour parler de la présidence de Nicolas Sarkozy. Ici, nous, on peut penser plus récemment à Trump qui signe décret sur décret à l'aide de son très très gros stylo. Et donc, quand l'Instant Pop nous propose de faire une rencontre autour des icônes féminines de la musique pop, chez nous, ça fait tout de suite écho avec les problématiques qui sont traversées dans notre exposition qui s'appelle, elle aussi, Mascarade. Tout d'abord parce qu'il n'y a pas d'identité plus à construire que celle d'une star de la pop. Une star de la pop, elle va performer à chaque instant son identité dans son clip, dans ses concerts, dans ses apparitions publiques. Et en fait, cette identité, elle est aussi intrinsèquement liée à celle d'une féminité qu'on pourrait aussi appeler féminité mascarade. Comme vous nous le rappelez d'ailleurs dans « Pour Britney », Louise Chenevière, Nelly Arcan, elle écrivait « Pour être aimée des autres, on pourrait dire aussi pour avoir une influence, il m'aurait fallu sourire. » Mais en incarnant d'autres féminités, en performant autrement son statut d'icône, on peut peut-être aussi changer le pouvoir de main, et c'est ce que je vais faire en vous donnant la parole, Coralie et Aurélie.
Merci beaucoup, Émilie, pour cette introduction. Pour faire un point donc sur notre asso, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Instant Pop, c'est une association blaisoise qui a été créée il y a un an, presque un an. Voilà, joyeux anniversaire à nous. Le principe de cette association, c'est de partir d'un objet culturel populaire, que ce soit un film, un livre, des musiques, et d'interroger notre rapport à la société à travers ces objets qu'on connaît. Pour ceux qui ont pu peut-être nous connaître les autres événements qu'on a fait, on a fait une diffusion de Dirty Dancing en VO, c'était très chouette. On a fait une table ronde autour de Buffy, et donc là, on est ravis de participer à la semaine L sur la place des chanteuses pop dans l'univers féministe. L'idée, c'est de parler de ce sujet, de voir effectivement, au-delà de la figure des midinettes qui chantent des chansons sirupeuses, peut-être qu'elles ont un peu plus à nous dire et qu'elles ont plus d'influence sur nos comportements et des choix de société. Et ce sera intéressant d'en discuter avec nos deux invités.
Donc on accueille aujourd'hui, on est ravis qu'elles soient présentes, Louise Chenevière et Morgane Giuliani. Donc je vais dire un petit mot pour chacune de vous deux pour vous présenter. Donc Louise, tu es autrice, tu as déjà publié 3 livres aux éditions POL, dont le dernier en date Pour Britney, paru en 2024, entremêle le destin de 3 femmes, Nelly Arcan, Britney Spears et toi. On voulait juste vous dire un petit mot sur Nelly Arcan pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est une autrice québécoise qui est connue pour ses ouvrages, notamment Putain, qui est une autofiction dans laquelle elle raconte son passé d'escorte, et Folle. Elle a mis fin à ses jours à 36 ans en 2029, alors que la thématique du suicide traverse toutes ses œuvres. Donc on va peut-être arriver à découvrir un petit peu plus avec toi, Louise. Et Morgane, donc tu es autrice, journaliste et conférencière. Tu t'es spécialisée dans les croisements entre culture et société avec un prisme féministe. Tu as publié 2 livres, donc Féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours. aux éditions, ouais, voilà, Le Mot et le Reste, en 2023. Et Taylor Swift, La Rebelle devenue icône, chez Talent Édition en 2024. Donc on vous remercie toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Pour celles et ceux qui ont d'ores et déjà vos ouvrages, vous pourrez les dédicacer à l'issue de cet échange. Et pour les autres, on vous invite à aller chez vos libraires préférés. À Blois, il y en a deux notamment, pour vous les procurer.
Pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette définition de la musique pop et peut-être qu'on se dise quand est-ce qu'on a vraiment commencé à avoir des figures de chanteuses pop, dans, peut-être nous au niveau de la France, quand on parle de chanteuses pop, à qui on pense en premier, et quelle était leur particularité par rapport à des chanteuses rock, folk, etc. Peut-être pour donner aussi un contexte de quoi on va parler, puis on va forcément devoir mettre des choses de côté, sinon on n'aura jamais le temps.
C'est une bonne question. Je pense que, en fait, la pop telle qu'on la connaît vraiment aujourd'hui, je pense qu'elle a plutôt émergé dans les années 80. Notamment, moi, en tout cas, dans mon cas, je commence mon livre avec Madonna, parce que c'est vraiment elle qui a façonné la figure de la pop star féminine telle qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire une femme qui va se montrer de manière très sexuelle, voire hyper sexuelle, qui va revendiquer la même liberté sexuelle pour les femmes que pour les hommes. Également une star qui va être très athlétique, très en forme, et qui va livrer des tournées très intenses avec des concerts où il y a beaucoup de danseurs, où il y a des tableaux. Et ça, c'est vraiment Madonna qui a introduit ça dans la pop avec son Blonde Ambition Tour qui a eu lieu en 1990. Et en fait, elle a vraiment créé le moule dans lequel à peu près toutes les pop stars aujourd'hui se glissent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Madonna, la pop devient surtout une affaire de femmes, alors qu'auparavant, c'était plutôt incarné par des hommes d'univers musicaux différents, comme les Beatles. C'était un phénomène pop au sens très populaire. Elvis Presley aussi, ou même Frank Sinatra. C'était, on va dire, milieu du XXe siècle, quoi. Mais pour moi, en tout cas, la pop telle qu'on la connaît nous aujourd'hui, je trouve qu'elle découle surtout des années 80.
Madonna, c'est la mère de toutes.
Oui, c'est un peu, mais c'est ce qu'elle aime dire aussi d'ailleurs. Elle aime dire que les artistes d'aujourd'hui lui doivent beaucoup. Elle a peur qu'on oublie son héritage d'une certaine manière et son rôle, le rôle qu'elle a joué pour ouvrir certaines voies dans la pop et la façonner telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Peut-être sur notamment ce que tu venais de dire sur la performance peut-être et comment elle a influencé peut-être c'est quoi les grands codes. Donc on a parlé, alors c'est drôle parce que ça fait écho en plus à ce que tu disais tout à l'heure Émilie Donnet sur la performance, le côté athlétique, c'est des shows qu'est-ce qui vous a marqué et notamment Louise, tu parles de Britney Spears dans ton livre, est-ce que c'est quelque chose que il me semble que tu en parles aussi dans ton livre, c'est ce côté hyper chorégraphié, hyper et à la fois contrôlé et à la fois très libre. Il y a un peu cette dualité finalement.
Oui, Britney Spears, c'est évidemment une très très grande performeuse avant toute chose. Elle dansait 8 heures par jour. Elle danse, elle s'entraîne depuis qu'elle est petite fille. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Mais j'ai eu l'intuition de me dire qu'en fait, si ses parents n'avaient pas voulu faire d'elle une star, elle aurait quand même été artiste. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus, c'était une petite fille qui voulait chanter et danser, sauf qu'elle est rentrée dans ce moule qui avait été effectivement forgé par l'industrie culturelle. Mais néanmoins, je tenais vraiment à rappeler dans le livre et à ce qu'on n'oublie pas, qu'on ne la réduise pas seulement à un objet, puisque c'est aussi un corps, et c'est un corps qui est véritablement sur scène et qui livre des performances sportives, athlétiques, de un très très haut niveau. Et même aujourd'hui encore, beaucoup disent que c'est la meilleure danseuse de la pop culture, en fait, qu'elle danse aussi bien que ses danseurs. Voilà, donc ce truc de la performance, il est assez fascinant quand même. Et voilà, c'est un petit corps de femme qui performe sur scène et qui génère des millions et des millions et des millions. Et voilà, je pense que ça, c'est bien de le rappeler aussi, que ces femmes-là, c'est pas juste des objets ou des produits, mais c'est vraiment des corps performants. Ouais.
Oui, et puis même, d'ailleurs, dans le cas de Britney, elle participait à l'élaboration des chorégraphies. Elle avait aussi vraiment une vraie patte artistique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que souvent, on se représente les femmes dans la pop comme des pantins articulés qui sont forcément manipulés en coulisses par des hommes. Malheureusement, parfois, ça peut arriver. Non pas forcément qu'elles sont des pantins, mais en tout cas qu'il y ait des hommes derrière qui dictent beaucoup leur carrière. Mais dans le cas de Britney, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, comme on dit, d'agentivité quoi, à ses débuts. Et il y a plein de preuves d'archives de ça, même sur YouTube aujourd'hui, qu'on peut voir. Et c'est important de le rappeler, ouais.
La raison pour laquelle ça marche, c'est quand même parce qu'elle chante et qu'elle danse comme elle le fait. Je veux dire, après, on peut bâtir tout ce qu'on veut au-dessus, mais c'est quand même important de le rappeler. Et aussi, pour la danse, je crois que, voilà, pour elle, c'était vraiment une passion. Et aujourd'hui, elle le fait encore, maintenant qu'elle est sortie de tutelle. Je ne sais pas si vous êtes familière ou pas de ces vidéos. Bon, tout le monde se moque d'elle. Il faut savoir qu'elle a des séquelles neurologiques. Elle était médicamentée de force quand même, Britney. Elle était sous tutelle pendant 13 ans. Elle ne pouvait pas choisir ce qu'elle mangeait. Elle ne pouvait pas retirer son stérilet. Elle n'avait pas de téléphone portable. Voilà, en fait, et c'est une femme qui est exploitée par l'industrie culturelle depuis ses 8 ans. Donc forcément, c'est quelqu'un dont le corps est abîmé. Mais néanmoins, il faut aussi entendre ce qu'elle nous dit aujourd'hui et la prendre à eux quand elle dit qu'elle aime danser, qu'elle continue à le faire et qu'elle continuera de le faire.
En fait, elle est aujourd'hui plus libre que jamais. Le Free Britney, finalement, elle fait ce qu'elle veut aujourd'hui. Et ça me fait penser à même Madonna aujourd'hui, où certains critiquent parce qu'elle utilise beaucoup la chirurgie. Avec ce fameux paradoxe de on n'a pas le droit de vieillir, mais en fait si on vieillit avec de la chirurgie c'est pas bien, mais si on met pas de chirurgie on nous critique. Et elle aussi, on peut dire, mais elle a toujours été libre, elle fait encore ce qu'elle veut quoi, Madonna.
Oui, Madonna, c'est vrai que c'est un personnage à part aussi dans la pop parce qu'elle revendique une indépendance hyper forte. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu la première pop star qu'on voit vieillir sous nos yeux, parce que elle est toujours en activité, elle continue à sortir des albums, à faire des tournées. Par exemple, Cher, bien sûr, heureusement existe toujours, mais elle est beaucoup plus en retrait. Madonna, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, elle poste beaucoup de photos d'elle. Elle a 66 ans aujourd'hui, elle continue à poser en lingerie, parfois avec des fouets, des martinets, des choses comme ça. Et c'est difficile parce qu'elle en prend, plein la tronche pour ces clichés-là, mais pour elle, en fait, elle ne se voit pas changer. Et on le voit même dans des interviews qu'elle donnait déjà il y a une dizaine d'années. Elle n'aimait pas parler de son âge, du temps qui passe. Et donc, c'est vrai que d'un côté, on peut aussi se dire que c'est limite un petit peu dommage. Ce serait bien qu'on ait une pop star qui nous parle de ses bouffées de chaleur, de la ménopause, de la libido qui change. Mais Madonna, elle a envie de rester, je pense, cette figure hyper impressionnante qu'elle a toujours été. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose un peu de finalement un petit peu d'ego, mais qui se comprend parce que ce sont des métiers d'ego de toute façon. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'on voit que comme déjà elle faisait scandale à son époque parce que elle se retrouvait à faire des chansons pop très sexuelles, en plus qui mêlaient aux religieux, donc c'était vraiment très subversif à son époque. Aujourd'hui, elle fait scandale dans sa manière de vieillir. Et pendant longtemps, elle voulait pas dire qu'elle faisait de la chirurgie, mais maintenant elle en parle un peu plus librement. Avec pas mal de sarcasme, parce que je pense qu'elle-même, en fait, elle a tout à fait conscience du fait qu'elle est dans une position impossible où il faudrait qu'elle vieillisse d'une manière naturelle et qu'elle se débrouille. Et du coup, si ça se voit, ça va pas, c'est ridicule. Et je pense qu'à nouveau, c'est comme dans plein d'étapes de la vie d'une femme, on est face à des injonctions contradictoires. Et dans son cas, en tout cas, je trouve que ce qui est assez admirable, c'est sa ténacité, quoi. Là-dessus, elle se laisse pas impressionner ou voilà, elle se dit pas, on s'est une énième fois moqué de moi sur Instagram, j'arrête le bistouri, quoi. Elle continue à faire ce qu'elle a envie de faire.
Louise, tu voulais réagir?
Non, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, comme je disais, Britney Spears, aujourd'hui, elle se montre encore, encore. Elle a 42 ans seulement, mais elle n'a plus le corps qu'elle avait à 16 ans. Le corps, là, on voulait qu'elle se montre en culotte. Et en gros, aujourd'hui, on ne veut plus. Parce qu'elle a le corps d'une femme de 42 ans. En plus, une femme de 42 ans qui, je le redis, a été surexploitée. Ouais. Donc, un corps qui, effectivement... Et moi, je trouve ça hyper fort et hyper puissant, en fait, que en fait, là, quand elle se montre en culotte, elle continue de faire ce qu'on a toujours voulu qu'elle fasse. Pourquoi elle s'arrêterait de le faire? Il y a aussi un truc de « vous m'avez demandé ça depuis toujours, donc en fait, je vais continuer de le faire ». Et moi, je dis « mais si elle a envie de le faire jusqu'à 90 ans, moi, je serais heureuse de la voir vieillir ». Et en fait, particulièrement en regard de Nelly Arcan, dont je parle dans le livre, qui est une autrice que j'aime, et qui, elle, avait terriblement peur de vieillir, parce que les hommes en face d'elle lui disaient, donc elle s'est prostituée à un moment, et les hommes lui disaient ne travaille pas trop, sinon tu vas devenir une vieille putain, personne n'en veut. Et en fait, moi je me dis que j'aurais beaucoup aimé qu'elle devienne une vieille putain, j'aurais beaucoup aimé qu'elle soit encore là, Donc j'espère que Britney Spears va devenir une putain. J'espère que ces femmes-là, effectivement, comme tu dis, c'est on a, moi je pense qu'on manque vraiment, vraiment de représentation de femmes qui. En fait, j'ai même pas envie de dire vieillissent, parce que c'est juste vivre. Enfin, c'est, en fait, il y a un truc un peu absurde de devoir, enfin, en fait, de femmes qui vivent. Voilà. En fait, je trouve qu'on devrait avoir plutôt l'impression de femmes qui vivent et qui vivent leur vie jusqu'au bout et qui vivent leur vie sans avoir à se cacher de ça. Voilà.
Je suis d'accord.
Tout à l'heure, vous parliez de la place que certains hommes peuvent avoir dans les carrières des pop stars. Et est-ce qu'on peut évoquer l'exemple des Spice Girls et à quel point ça a été un girls band qui a été voilà, construit de toutes pièces, mais à quel point, à un moment donné, ils ont repris le pouvoir sur leur carrière, peut-être.
Oui, carrément. En fait, elles ont un parcours hyper intéressant, les Spice Girls. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont répondu à une petite annonce dans le journal. En fait, il y avait deux producteurs dont j'ai plus le nom, parce que de toute façon, c'est pas eux vraiment que l'histoire retiendra, qui cherchaient à monter un girl band parce qu'ils voulaient essayer de concurrencer la mode des boys bands. Et ils se disaient, mais il faut qu'on ait un équivalent féminin, sachant que les girl bands, il y en avait déjà, qui avaient existé au milieu du XXe siècle aussi, mais qui étaient très différents, où souvent, c'était une chanteuse qui était vraiment mise en avant, et les autres étaient limite un peu ses choristes. Là, ils voulaient vraiment créer un girl band où chacune aurait une personnalité très définie et que chacune serait mise au même niveau. Et donc elles ont répondu comme ça à ces annonces-là et en fait elles ont été sélectionnées et elles se sont retrouvées dans une maison en banlieue de Londres, je crois, dans mon souvenir, où on les a formées pendant des mois au chant et à la danse, en fait un peu comme la Star Academy. C'est-à-dire que c'était complètement inédit comme processus. Par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très institutionnalisé en Asie notamment, que ce soit en Corée du Sud,
la K-pop
ou au Japon. Il y a vraiment des écoles spécialisées pour former les pop stars de demain, où ils travaillent d'arrache-pied, ils essayent de former des groupes et puis finalement ils changent de membres et ils essayent de trouver la meilleure combinaison possible. Et donc elles se retrouvent toutes ensemble. Il y a une super alchimie entre elles et ce qui les réunit notamment, c'est qu'elles ont de l'ambition, elles ont envie de réussir. Et elles sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre elles cinq. Sauf que c'est long. Elles commencent un peu à s'impatienter au bout d'un moment parce que leurs producteurs veulent vraiment prendre leur temps. Et en même temps, elles ne sont pas trop payées à cette époque-là non plus. Donc, elles commencent un peu à perdre de l'argent. Et donc, un jour, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont volé leur master, c'est-à-dire les enregistrements originaux de chansons qu'elles avaient déjà pu enregistrer. Et elles sont allées toquer à la porte d'un autre manager et producteur pour vraiment pouvoir démarrer leur carrière. Donc là-dessus, les Spice Girls, notamment à l'époque, quand on regarde les archives, médias et tout, elles s'en prenaient plein la tronche parce que tout le monde se disait ça peut pas être un groupe de musique sérieux parce qu'elles ont répondu à une petite annonce, alors que il y a combien de groupes de masculins se sont formés comme ça aussi, il y en a beaucoup, parce qu'elles ont répondu à un casting, ça ne se fait pas, c'est bizarre, et puis elles savent pas jouer d'instruments, etc. Et le fait qu'elles décident de voler les masters, et vraiment, c'était toute une combine, elles s'étaient préparées, elles avaient deux voitures, une pour mettre leurs affaires dedans, l'autre pour partir avec les masters. Et c'est incroyable, je veux dire. Et par la suite, le manager qu'elles avaient engagé, elles ont fini par le remercier, le licencier, pour se manager toute seule, donc manager leur tournée, trouver des plateaux télé ou faire des shows, etc. Et donc, je trouve quand même que pour des femmes, par contre, à qui on peut reprocher d'autres choses, mais en tout cas, sur ce point-là, je trouve qu'on a vraiment oublié cette indépendance qu'elles ont eue. Et le fait qu'elles ont fait front en tant que groupe féminin en plus et qu'elles ont réussi vachement à imposer beaucoup de choses et à s'émanciper justement d'un fonctionnement qui ne leur convenait pas en fait.
Mais je pense que de toute façon, on a beaucoup plus tendance à considérer une femme qui fait de la musique comme un produit, un objet. Tu vois, même je pense à Elvis Presley. Enfin, on ne viendrait jamais à l'idée de dire Elvis Presley est le produit de, ou a été produit, ou est un objet. Alors qu'en fait, ces histoires de très grands succès pop, ils sont toujours à la rencontre d'un très grand talent et d'une stratégie. Voilà. Donc en fait, c'est toujours ça, je pense, pour tous les artistes, même masculins, qui se sont imposés dans l'histoire. Mais c'est vrai que dès que ce sont des femmes qui s'imposent dans l'industrie musicale ou culturelle, on a tendance à penser que ce sont des objets et des produits, vraiment des produits.
ce n'est pas penser... des artistes légitimes. Ouais.
Ça me fait penser à Taylor Swift qui s'est réapproprié, enfin qui récupère. Peut-être Morgane, tu peux nous expliquer un peu, parce que ses 6 premiers albums, je crois, que ne lui appartiennent pas.
Oui, c'est ça.
Et elle aussi, pareil, elle a essayé de reprendre la main, quoi.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait signé un premier contrat avec une maison de disques quand elle avait 15 ans. Ou, ce qui est très classique dans l'industrie de la musique, elle avait cédé la propriété des 6 albums qu'elle allait sortir avec eux. Elle s'était engagée à faire 6 albums. C'est vraiment très classique, c'est-à-dire que ça arrive à peu près tous les artistes. Sauf que le temps passant, elle s'est dit, en fait, ma musique, c'est quand même des chansons que j'écris, qui parlent de ma vie. J'aimerais quand même qu'elles m'appartiennent. Et elle n'a pas réussi à pouvoir les racheter. Et en fait, son ancien label, une fois qu'elle avait terminé ses 6 albums promis avec eux, a revendu tout le catalogue, y compris ses 6 premiers albums, à un fonds d'investissement privé, ce qu'elle a extrêmement mal vécu. Et du coup, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de réenregistrer ses 6 premiers albums et de les ressortir pour, en gros, dans l'espoir que les fans aillent les acheter et les écoutent en priorité sur les plateformes de streaming plutôt que les originaux. Et ça marche très bien. Ils se sont vendus déjà à plusieurs millions d'exemplaires. Et en fait, c'est vraiment devenu pour elle une cause féministe, parce que, en l'occurrence, ce sont des hommes qui se sont vendus entre eux son catalogue. Et ça l'a vraiment rendue folle, mais à raison, parce qu'elle trouvait ça extrêmement violent. En plus, le patron de son ancien label, c'est vraiment quelqu'un qu'elle estimait beaucoup, qu'elle voyait un peu comme une deuxième figure paternelle. Et elle s'est vraiment sentie trahie. Et en fait, c'est la première. Alors, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'une artiste réenregistre ses précédents albums, des chansons, mais elle, personne n'a jamais comme ça réenregistré 6 albums. Ça n'existe pas. Mais c'est un problème de manière générale dans l'industrie musicale qu'elle a beaucoup contribué à faire connaître auprès du grand public, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment une industrie sans voix ni loi, l'industrie musicale. Par exemple, Rihanna, de son côté, qui est une autre pop star, en 2016, elle a pu racheter les masters de ses précédents albums. En fait, il faut savoir que quand vous êtes propriétaire de l'enregistrement original de votre album, donc le master, c'est vraiment le meilleur moyen de gagner de l'argent en tant qu'artiste, parce que vous allez toucher de l'argent sur toutes les copies qui sont faites à partir de cette copie originale, et sur toutes les utilisations derrière, dans des pubs, dans des films, dans les séries télé. Et c'est notamment pour ça que, depuis toujours, on entendait très rarement des chansons de Taylor Swift dans des films ou des séries, parce qu'elle refusait. Parce qu'elle n'était pas propriétaire de cette musique-là. Et là, maintenant qu'elle réenregistre ses premiers albums, on commence petit à petit à voir apparaître sa musique dans des séries ou des films.
Et puis elle pouvait compter aussi sur sa communauté de fans, les Swifties, qui ont vraiment se sont dit « Ok, maintenant on n'écoute que les versions, donc les Taylor's version,
oui,
sur les plateformes, une chanson, on fait attention d'écouter celle pour laquelle Taylor va toucher des royalties.
Oui, »
Et ça me donne envie du coup de rebondir sur une petite question. Je vais peut-être poser la question au public, parce que finalement, être fan d'une chanteuse pop, est-ce que vous avez été fan de certaines chanteuses pop? Madonna, Britney, Mylène Farmer, ça c'est un pareil. Hein. En France, c'est vraiment la star pop. Peut-être d'autres, des Christina Aguilera, peut-être plus récente, Dua Lipa, Billie Jean, ouais, un peu, Charlie XCX. Ouais. Peut-être, Louis, et puis Morgane pourra rebondir, mais ce rapport, être fan d'une chanteuse pop, ça a été parfois un peu dénigré. Est-ce que c'est facile à dire qu'on est fan d'une chanteuse? Parce que finalement, on a l'impression parfois que c'est plus facile de dire qu'on est fan d'un club de foot ou d'un club de basket blésois que de dire qu'on est fan d'une chanteuse pop.
Oui, moi je pense que petite, mes parents m'ont très tôt fait sentir que Britney Spears était une chose assez méprisable, assez vulgaire. Enfin, en fait, toute la construction, et d'ailleurs le début de mon livre vient de là, puisque j'ai lu ses mémoires. Et en lisant ses mémoires, pour résumer brièvement, j'étais très fan d'elle toute petite. Et en fait, après, je me suis éloignée d'elle, mais carrément pendant 25 ans. Et même, je me suis moquée d'elle quand elle s'est rasée la tête. Quand je voyais les fans qui étaient là, Free Britney, je me disais, enfin, c'est bon, il y a des choses plus importantes et tout ça, plus importantes. Donc j'étais vraiment... Et en fait, en lisant le livre, son livre à elle, ses mémoires, et en réalisant ce qu'elle avait vécu, je me suis rendu compte que j'en étais venue à mépriser une femme que j'avais vraiment aimée, mais vraiment, vraiment, comme un enfant, une enfant aime. Et ma première question qui a démarré le livre, c'est est-ce qu'un petit garçon, quand il grandit, alors évidemment on change, donc je dis pas que je serais restée fan de Britney toute ma vie, mais c'est pas de c'est même pas de l'éloignement, c'est vraiment une forme de haine,
de mépris.
Et je me suis dit, mais est-ce qu'un petit garçon, s'il est ultra fan de joueurs de foot, et ben est-ce qu'après, quand il grandit et qu'il leur arrive des choses horribles, est-ce que il va avoir cette sorte participer comme ça, sorte de lynchage, voilà, un peu collectif? J'ai pas la réponse, mais moi je me suis dit vraiment c'est fou que de moi-même j'ai intériorisé pour cette femme une forme de mépris alors que j'ai été vraiment fan d'elle, qu'elle m'a vraiment apporté quelque chose, et c'était la musique et la danse en tant que petite fille, et un modèle aussi, une représentation d'une femme libre et puissante que moi je n'avais pas à l'époque et que je n'ai pas eu après pendant toute l'adolescence. C'est-à-dire à 20 ans, elle est élue la femme la plus puissante du monde, elle fait la musique qu'elle aime, elle fait ce qu'elle veut, et moi évidemment j'ai envie d'être elle. Et après ça, je m'éloigne d'elle, et pendant toute mon adolescence, je n'aurai plus que des modèles masculins. Donc évidemment, j'ai senti que c'était quelque chose, oui, très vite de méprisable. Et même aujourd'hui, pour être très honnête, moi je suis très heureuse de l'avoir fait apparaître dans un livre de littérature, mais il y a évidemment des personnes dans des institutions culturelles très sérieuses qui m'accueillent en disant « moi, Britney Spears », et en me faisant comprendre qu'ils n'ont pas lu mon livre. Voilà, donc il y a ça encore.
Morgane, t'as envie de réagir ?
Ça m'énerve, mais ça m'étonne pas trop non plus, malheureusement. Et oui, Britney, je pense que ton parcours, en fait, il est représentatif du sien, au sens où c'est l'époque où elle a été vraiment traînée dans la boue, quoi. Et on la voyait vraiment comme la femme dysfonctionnelle par essence. Ça, j'en parle aussi d'ailleurs pas mal de cette période-là, du moment où elle a pété un plomb et qu'elle s'est retrouvée sous tutelle. Les tabloïds disaient qu'elle était bipolaire, mais en fait, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été confirmé. Mais cette idée est restée aujourd'hui. Et du fait qu'elle était médicamentée, qu'elle a aussi été internée 2 fois de force en hôpital psychiatrique, ça a marqué les gens. Et il y avait vraiment cette idée de... c'est quand même terrible, parce que c'était une petite fille qui a commencé à la télévision, quand même dans une émission du groupe Disney, qu'on a... mis sur un piédestal, mais qu'en même temps on rabaissait beaucoup, tout le monde était obsédé par sa pseudo-virginité. On l'a ramené tout le temps à ça.
En même temps, il me semble bien qu'on lui avait demandé de calmer sa voix. Je trouve que c'est très symbolique. Elle a une voix, Britney Spears, elle a vraiment une forte tessiture. Elle fait du gospel.
Oui, elle a une voix incroyable. Oui, oui.
Elle a une voix de fou. Et on lui a dit,
Oui, parce qu'on voit quand elle était petite, quand elle chantait, elle chantait beaucoup plus fort que ce qu'elle chantait par la suite, quand elle s'est vraiment lancée dans la pop. Et en fait, je pense qu'elle est malheureusement, même à l'image de notre génération, tu vois, je pense qu'on est toutes les deux des millénials. Moi, j'avais pas non plus vraiment d'idole féminine quand j'étais ado. Peut-être un petit peu Avril Lavigne, mais vite fait. Et en même temps, c'était pas quelqu'un qui s'exprimait justement sur la place des femmes dans la musique. Au contraire, elle avait plutôt tendance dans sa musique à dire « je suis pas une fille comme les autres ».
Je suis pas une femme, ouais.
Oui, voilà, je suis pas une femme, mais ce qui est très représentatif de son époque. Et il a fallu que j'arrive vraiment dans la vingtaine assez tard et que je commence aussi à m'intéresser aux questions féministes, etc. pour me dire « mais en fait, ces femmes-là, elles racontent plein de choses intéressantes, mais personne ne me l'a jamais dit. Je suis toujours partie du principe que c'était forcément gnangnan, superficiel, et que, en tant que femme, si tu veux être prise au sérieux, il faut se détacher de ces figures-là. Et moi, qui écrivais surtout d'ailleurs sur la musique rock, au bout d'un moment, j'ai fait un espèce de virage, parce que, en fait, je me disais, mais il y a beaucoup plus de trucs intéressants à dire sur ces femmes-là. Mais c'était hyper mal vu à nouveau, parce que Britney, je pense, elle incarne aussi un peu la femme américaine qui va mal et qui au bout d'un moment ne voulait plus jouer le jeu, et ça c'était impardonnable.
Oui, je pense que Britney Spears, on lui a vraiment, tu parlais de la folie, enfin, faut vraiment imaginer une femme qui fait tout dans sa vie avec 40 paparazzi qui la suivent avec des objectifs de 30 cm de long. Donc une femme qui accouche, qui fait ce qu'on appelle un postpartum aujourd'hui, et qui fait tout ça sous les yeux du monde entier en permanence. Et en fait, quand on re-regarde son parcours, on se rend compte qu'elle a vraiment incarné malgré elle toutes les figures de la féminité. Donc d'abord la jeune vierge sacrifiée, ensuite la jeune putain provocante, ensuite la mauvaise mère, ensuite la femme folle. Enfin, c'est vraiment assez... fascinant comment elle est venue jouer. Enfin, on lui a fait jouer tous les rôles de la salope qui a trompé son mec. Enfin, voilà. Et en fait, moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une survivante. C'est-à-dire qu'elle a vécu. Et je pense que c'est. Moi, quand j'ai lu son livre, je me suis dit, mais en fait, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Elle a vécu à échelle planétaire ce que beaucoup de femmes ont vécu. Donc, par exemple, elle se fait siffler par un stade de 20 000 supporters de foot quand elle y entre, qui la traite de salope, parce qu'elle aurait trompé donc son mec, qui aujourd'hui le dit, l'a trompé des dizaines de fois. Et donc, il faut imaginer ce que c'est pour une jeune femme. Et en même temps, elle est restée. Enfin, en fait, quand on regarde les vidéos, quand on regarde tout, elle est hyper intelligente, elle est hyper forte. Et au début, elle est là, elle est à 17 ans, et elle répond à des mecs qui lui parlent de ses seins sur des plateaux télé. Elle est hyper forte, quoi. Il faut regarder ses interviews, elle est vraiment hyper touchante, hyper intelligente, mais il y a un moment où ça craque, quoi, où ça peut pas tenir, quand même. Et c'est d'ailleurs le moment où elle a eu les enfants, en fait, quand même.
Oui, elle a quand même été surexposée, finalement, toute sa vie, et c'est vrai que quand on regarde, c'est en 2007 où elle s'est rasée la tête. Moi, je me souviens à l'époque, je m'étais dit, mais elle a vraiment pété un plomb. Et exactement comme vous, j'avais pas tout l'arrière-plan de pourquoi elle en est arrivée là. Et quand on a tout ce contexte, on se dit, mais waouh, évidemment que ça peut pas être autrement. Et justement, ça nous amène à un thème qui nous tient particulièrement à cœur, et à Coralie et moi, c'est la question de la santé mentale des artistes. C'est vrai qu'on a cet exemple-là de Britney qui se rase la tête avec tous ces clichés qu'il y a eu. Mais ça a longtemps été tabou. Et je sais que dans ton livre, Morgane, tu évoques que Mariah Carey a été une des premières à parler publiquement de ses soucis de santé. Comment s'explique ce revirement-là, en fait ? Est-ce qu'il y a eu un moment, enfin, tu en parles dans ton livre, il y a eu un moment un peu déclencheur ?
Oui, je pense que l'époque commençait un peu à évoluer. Et après... C'est ma supposition, mais je suis pas la seule à l'avoir. Je pense que le suicide de l'acteur Robin Williams en 2013, si je me trompe pas, enfin en tout cas au début des années 2010, a beaucoup choqué parce que c'était une figure adorée, aimée, en plus qu'on relie beaucoup à l'enfance parce qu'il a joué dans des films très marquants comme Jumanji ou Hook, où littéralement il joue Peter Pan. En plus, c'est l'adulte qui veut pas grandir. Et finalement, son suicide, qui a énormément choqué, a rappelé que les problèmes de santé mentale, c'est très pernicieux. C'est pas parce que quelqu'un fait des blagues tout le temps et rigole que c'est pas quelqu'un en souffrance. Et je trouve en tout cas qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des célébrités qui commençaient à dire, bah, en fait, moi, je souffre d'anxiété, ou je me bats avec la dépression, ou dans le cas de Mariah Carey, par exemple, elle a révélé qu'en fait, elle a été diagnostiquée bipolaire, et donc elle a dû avoir un traitement pour l'aider, et c'était quelque chose qui était très difficile pour elle à dire publiquement. Et en fait, elle l'a aussi fait parce qu'elle savait que ça allait sortir. Elle savait que, en gros, elle a voulu un peu couper l'herbe sous le pied à un tabloïd qui s'apprêtait à le faire. Et finalement, c'est d'un côté assez positif parce que ça permet aussi un peu de, d'une certaine manière, désacraliser ces figures-là où on se dit, ce sont forcément, voilà, des gens qui vont extrêmement bien tout le temps ou hyper forts, hyper résilients. Pas toujours. Et puis, ça permet surtout de plus parler des problèmes de santé mentale qui, en fait, concernent énormément de personnes. Et c'est vrai que là-dessus, les célébrités, je trouve, ont un rôle à jouer dans la... Bon, après, elles ne sont pas obligées de témoigner, mais je pense qu'en tout cas, ça aide à lever beaucoup de tabous. Et dans le cas de Britney, pour revenir à elle, ce qui est assez spécial, c'est qu'il y a eu ce faux diagnostic posé... Enfin, c'était fou, à l'époque, les tabloïds interrogeaient des psys pour leur demander leur avis, mais ils ne la connaissaient pas. Donc, et même si elle avait été leur patiente, ils n'auraient pas eu le droit d'en parler, donc ça ne rimait à rien. Et pour autant, le fait que même aujourd'hui, elle ait ses séquelles, etc., les gens ont l'air surpris, alors qu'il n'y a rien de surprenant. Mais c'est intéressant, on voit de plus en plus de chanteuses, notamment, exprimer leurs problèmes d'anxiété, de dépression. Et je pense que ça aide beaucoup, et je pense que ça pousse aussi, d'une certaine manière, l'industrie musicale à se remettre en question, parce qu'on leur impose des rythmes de vie très durs, où il faut sortir beaucoup d'albums, derrière il faut enchaîner avec des tournées, et comme les artistes gagnent de plus en plus leur vie grâce aux tournées, il y a aussi cet impératif, cette injonction à « faut être beaucoup sur la route, donc jamais chez toi », etc. Et on commence à voir des jeunes artistes aujourd'hui qui essayent de remettre un peu en cause ce modèle-là, notamment parce que moralement, ils trouvent ça trop difficile. Mais c'est, ça reste encore un tabou où parfois il y a des histoires horribles comme ça. Une chanteuse aussi, pop star, qui s'appelle Halsey, qui s'est retrouvée un jour à faire un avortement spontané. En fait, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle a découvert au moment de son... pas de son avortement, pardon. Enfin, on dit avortement spontané, mais de fausse couche. Qu'en fait, elle était enceinte. Et le soir-là, elle devait donner un concert. Et ses producteurs lui ont dit, faut y aller, quoi. Et donc elle disait, j'ai dû mettre une couche pour adulte et je suis allée faire mon concert, mais j'étais complètement choquée et dissociée. Je sais même pas comment j'ai fait. Rétrospectivement, je regrette et j'estime qu'on m'a maltraitée le jour-là. Donc on a de plus en plus de témoignages comme ça et je pense que c'est très positif pour le grand public, mais aussi pour que nous, on se rende compte en tant que public aussi que malheureusement, parfois, les artistes évoluent dans des environnements qui sont pas très bienveillants, quoi.
Je pense que sur Britney Spears, c'est aussi la manière de pathologiser tout le temps en fait des gestes. Donc on la diagnostique bipolaire et en fait folle au moment où elle tape avec un parapluie sur une voiture de paparazzi et au moment où elle se rase la tête. En fait, c'est pas des gestes de folie du tout. Ce sont des gestes de réaction à une traque véritablement. Même on se demande comment elle n'a pas réagi plus et autrement. Enfin, je veux dire. Et en fait, quand elle se rase la tête en 2007, en fait, raser la tête des femmes, c'est quelque chose qui s'est déjà vu. Ça a pour but de les exclure, en fait, de l'ordre du désir et de les marquer. Mais en fait, ce qu'elle fait Britney à ce moment-là, elle dit « je me suis rasée la tête pour plus qu'on me touche ». Donc elle sait très bien, en fait, qu'elle fait ça. Enfin, elle le sait, elle n'a pas le discours féministe, elle n'a pas le bagage, elle n'a pas les moyens de le formuler. Mais en fait, ce geste-là, pour elle, à ce moment-là, c'est « laissez-moi tranquille ». Donc en fait, ça veut dire aussi qu'elle sait très bien que tout repose dans ses cheveux, dans le fait qu'elle est identifiée, identifiable comme une jeune femme blonde aux longs cheveux. Et donc ça veut dire qu'on a le droit de la toucher. Et donc elle sait qu'en se rasant la tête, elle va se libérer, en fait, de ce droit qu'a le monde entier de la toucher. Et donc c'est vraiment fou comme on pathologise ce geste qui en fait est un geste politique. Et je veux dire que moi, après, en grandissant, c'est quelque chose dont on discute hyper souvent avec mes copines, et il y en a qui l'ont fait, de se raser la tête, ne serait-ce que pour voir comment le regard change dans la rue et comment on nous regarde plus et comment on est tranquille. Et ça, elle le fait en 2007 et elle est toute seule là-dedans.
J'aime bien effectivement cet écho entre une génération comme celle de Britney Spears où effectivement c'était un peu précurseur. En venant sur la route, j'ai une petite playlist féministe et j'ai écouté un morceau de Diams et je me suis dit, mais oui, tiens, c'est vrai que Diams aussi, elle a parlé à l'époque de la complexité, de la difficulté de son métier, qu'elle avait elle aussi des crises d'angoisse et que c'était vraiment des passages dépressifs et que le fait de se retirer de l'industrie musicale, ça lui a fait énormément de bien et on l'a énormément critiqué aussi sur ses choix.
Oui, puis ça faisait la une des magazines People quand elle s'est retrouvée, je crois, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris parce qu'elle allait très mal et qu'elle avait besoin d'une prise en charge, quoi. Et elle a été courageuse et même encore aujourd'hui, le fait qu'elle se soit tournée vers la religion comme quelque chose qui lui apporte du réconfort et du sens, on a du mal à le comprendre. Mais là-dessus, moi, je trouve son parcours admirable parce qu'elle a réussi à faire ce qui lui faisait du bien. Et en plus, dans un pays où il y a un rapport compliqué à la religion musulmane notamment. D'ailleurs, elle le disait à l'époque, Diams, pour revenir au féminisme, que se dire féministe, c'était compliqué pour elle. Parce qu'elle disait, moi, j'ai l'impression que le féminisme est excluant pour les femmes musulmanes. Du coup, où est-ce que je pourrais me situer. Et je pense qu'il y a eu un raté aussi là-dessus, malheureusement. C'est les moments comme ça que j'explore parfois dans mon livre où je pense qu'il y a des rendez-vous manqués entre le féminisme et certaines artistes. Ou comme tu disais, Britney, elle ne se rend pas compte, mais elle a été malgré elle une icône féministe parce qu'elle a été à sa manière dans la résistance et dans la protestation sur toute l'instrumentalisation et la diabolisation dont elle a été victime.
Mais je pense que, comme toujours dans ces affaires de femmes, c'est vraiment le corps qui est au centre. Et si l'industrie culturelle peut être aussi évidemment extrêmement dure pour les hommes, pour les artistes, il y a cette question du corps est évoquée, cette fausse couche. Moi, il y a quelque chose aussi dont je trouve dont on ne parle pas assez. Et c'est le fait que pour beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont immobilisées quasiment une semaine par mois, par leurs règles. Moi, j'ai une amie qui était là en résidence artistique et elle me dit, tu vois, cette semaine, j'ai rien fait. Donc on lui offre un mois de résidence artistique, ce qui est très précieux pour un artiste. Mais en fait, sur ces un mois, il y a une semaine pendant laquelle elle est en dépression nerveuse, fatiguée. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas, mais moi, je fais de la musique aussi maintenant. Et je me suis toujours dit, mais comment je fais si j'ai un concert important qui tombe le premier jour de mes règles? En fait, c'est... Mais on voit que ce n'est absolument pas pris en compte. Enfin, et là, je parle au-delà de l'industrie culturelle. Enfin, je parle vraiment que moi, au lycée, je m'évanouissais. Je pouvais pas le dire, en fait. Donc, c'était des absences. Enfin, et donc, on imagine dans ce système où des jeunes femmes sont là pour performer leur corps, pour livrer une performance, pour performer tenues, un truc dans des tenues hyper courtes et tout, et qu'elles sont... Enfin, en fait, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais qui sont évidemment... de l'ordre de la vraie maltraitance. Enfin, voilà, ce truc d'envoyer une jeune femme ou une femme qui a fait une fausse couche sur scène le soir même, c'est clairement de l'ordre de la maltraitance grave du travail, ouais.
Peut-être pour revenir justement sur les thématiques féministes, il y a toujours cette éternelle question de... on va évoquer, on a parlé tout à l'heure des Spice Girls et du mouvement Girl Power. Pour la petite anecdote, moi, les Spice Girls, j'adorais. Et j'ai retrouvé un agenda que j'avais quand j'étais au collège. Et entre deux photos de Buffy et de Britney Spears, j'avais dessiné le signe du Girl Power, la Vénus avec Marie. Et je me dis, en fait, c'était les petites graines qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis féministe. Mais sauf qu'à l'époque, on est dans les années 90, clairement, le sujet n'est pas abordé. Et il y a toujours cette question de se dire, est-ce que le girl power, c'était juste du développement personnel? Mais attention, c'est pas politisé, et tant qu'on est dans de l'empouvoirment, ça va. Ou est-ce que vraiment, c'est aller plus loin? Est-ce qu'aujourd'hui, et même à l'époque, elles avaient des messages forts? Et pour revenir notamment sur le thème de la semaine, est-ce que c'est des femmes d'influence ou c'est des femmes influencées?
Par rapport aux Spice Girls, je trouve quand même que c'est plus des femmes d'influence que des femmes influencées. Après, elles étaient bien sûr aussi influencées par le contexte dans lequel elles ont grandi, c'est-à-dire l'Angleterre de Thatcher, donc une Angleterre néolibérale, très violente, qui a vraiment essayé d'appliquer cette logique du chacun pour soi. Les Spice Girls, notamment, sont des grandes fans de Margaret Thatcher et disaient beaucoup que c'était la première Spice Girls parce que... oui, ça fait mal. Quand on lit ça, ça fait mal. Jerry Halliwell, notamment, grande fan de Margaret Thatcher, parce que pour elle, le fait qu'une femme devienne première ministre, peu importe ses convictions, pour le symbole, c'était déjà hyper fort. Et je pense que... Donc elles ont complètement rejeté le féminisme, même encore aujourd'hui. Hein, elles n'arrivent pas du tout à s'identifier à ça. Je pense aussi parce qu'à leur époque, elles étaient très rejetées par les intellectuels féministes. Mais elles ont incarné ce qu'on appelle le girl power, mais qui, à la base, venait des scènes punk féministes, les Riot Girls. Donc qui a été complètement passé à la machine à laver de la pop... Et quand même pas mal dépolitisé, parce que dans le cas des punks féministes, l'envie, c'était notamment de dénoncer le manque de femmes sur les scènes musicales, de dénoncer le fait que c'est compliqué d'être une femme, d'aller à un concert et de pouvoir y aller tranquillement, sans risquer de se prendre une main aux fesses et d'autres trucs sympas. Les Spice Girls, elles, ce qu'elles ont beaucoup promu, par exemple, ce qui est quand même positif, c'est la sororité. C'est ça, leur tube wannabe, c'est littéralement de dire à un homme... si tu veux sortir avec moi, t'acceptes toutes mes copines qui vont avec, quoi. Et je pense que là-dessus aussi, on est nombreuses en tant que femmes à avoir pu se retrouver dans des situations compliquées où notre conjoint a du mal avec nos copines, etc. Et elles essayaient de pousser les jeunes filles à donner vraiment la primeur à l'amitié féminine dans leur vie, plus que les relations amoureuses hétérosexuelles avec des hommes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui chez les gens qui les ont écoutés ados et qui les a beaucoup marqués. Et aussi l'idée d'essayer de tenir tête et de faire face dans un monde d'hommes et de s'habiller de manière sexy, quitte à ce qu'on se fasse siffler. Mais de toute façon, c'est des gros cons et puis tant pis. Une fois sur un tournage de publicité comme ça, elles s'en sont prises à un homme qui a fait une remarque désobligeante à l'une d'elles. Ça, ce qui est quand même fou. Elles étaient, elles, en train de tourner une publicité et un homme de l'équipe a fait une remarque désobligeante à l'une d'elles. Elles sont toutes allées le voir et l'allumer en mode « c'est quoi ton problème, en fait ?» Et donc, ce sont des femmes compliquées, les Spice Girls, mais qui, je trouve, sur certains points, ont quand même donné, dans une certaine manière, une image positive de ce que peut être le féminin et la sororité, et qui a clairement marqué les gens qui ont les femmes en tout cas, qui ont grandi avec elles. Mais c'est un héritage plein de nuances, même encore aujourd'hui.
Je pense que ce qui se passe, c'est que c'est souvent des négociations, en fait. Enfin. Les situations sont tellement complexes, imbriquées, donc moi j'ai l'impression que là on a du pouvoir aussi, c'est sur la manière de percevoir les choses, nous. C'est-à-dire, moi, on me demande souvent comment va Britney Spears, est-ce que Britney Spears est féministe? En fait, j'en sais rien, enfin, c'est pas mon propos, mais j'ai l'impression que la manière de la regarder, avec indulgence déjà, voilà, en comprenant qu'effectivement, ça a été une femme qui a négocié avec beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai aussi, dans le cas de Britney, où là, on a parlé justement beaucoup d'une femme sous influence. Moi, j'ai essayé aussi de redonner vraiment le fait que ça avait été une femme d'influence, mais une femme d'influence vraiment positive, parce qu'elle n'avait pas de message politique particulier, mais elle donnait quand même aux enfants la musique et la danse. Et moi, je me rappelle que ça me tenait en vie, quoi. Je m'ennuyais toute la journée en cours, et en fait, le soir, je rentrais et je l'écoutais. Et c'était quelque chose de très joyeux et de très puissant, en fait. Donc, j'ai l'impression que... Aussi, voilà, vouloir essayer de savoir exactement ou déceler ou distribuer les bons points de qui serait... voilà, en tout cas, pour ce qui est de entre guillemets, de l'histoire passée, c'est-à-dire de l'histoire de cette pop qui est déjà au début du 21e siècle et qui est un peu derrière nous et qu'on analyse rétrospectivement, il ne s'agit pas de dire, voilà, ça, c'est la bonne féminité, ça, c'est la mauvaise, ça, c'est la bonne manière d'être féministe, ça, c'est la mauvaise... je pense que c'est toujours des histoires de négociation. Après, je trouve qu'il ne faut pas... Moi, par exemple, dans le cas de Britney, il y a des choses aussi que j'aime bien souligner et que je pense sont importantes. C'est qu'on parle beaucoup de son père, mais qu'en fait, sa mère a participé main dans la main à sa mise sous tutelle de Britney Spears. Et qu'en fait, on a aussi beaucoup de mal à se représenter une forme de violence exercée par des femmes, même dans l'industrie culturelle. Il y avait des femmes dans la team de Britney. Il y avait des femmes qui ont participé à l'exploiter, qui se sont fait de l'argent sur son dos. Donc... Voilà, est-ce que ces femmes-là, parce qu'elle, sa manageuse notamment, qui l'a complètement exploitée, est-ce que, bah, parce que c'est une femme qui a monté une boîte, il y a aussi. Et ça, c'est. On en parle beaucoup moins. Voilà, on parle de son père, parce qu'effectivement, son père, c'est lui qui a eu le pouvoir légal, parce que c'est pas sa mère, donc ça, c'est. Voilà, une cour de justice donne le pouvoir légal au père, mais néanmoins, dans l'ombre, le père est épaulé par deux femmes, la manageuse de Britney et la mère de Britney. Et ça, on l'invisibilise aussi beaucoup.
Oui, parce que je pense que ça rend tellement... Enfin, c'est tellement limite l'exemple ultime de patriarcat que ça prend toute la place et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, alors que, comme tu le dis, c'est plus compliqué que ça. Et puis, on peut le retrouver parfois chez d'autres artistes comme ça, des cas où sont des... Enfin, où malheureusement aussi des rivalités entre artistes. Heureusement, on voit ça un peu moins aujourd'hui. Mais par exemple, à une époque, Mariah Carey, qui se faisait un malin plaisir à être désobligeante dès qu'elle parlait de Jennifer Lopez. Ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu moins le cas.
Ouais, ça change.
Ouais, ça change. Par contre, je trouve que les communautés de fans ne changent pas trop et qu'elles continuent beaucoup à essayer de s'écharper entre elles. Par exemple, de nos jours, notamment entre les communautés de fans de Taylor Swift et de Beyoncé, où on essaye toujours de les poser en rival et de se dire, parce qu'on se dit il n'en faut qu'une, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui réussissent à faire carrière dans la musique, mais chacune dans son style musical, il faudrait qu'il n'y en reste plus qu'une au bout, comme s'il n'y avait pas la place pour qu'elles puissent coexister, en fait.
Le syndrome de la schtroumpfette, il faut qu'il y ait qu'une seule femme, mais oui, c'est dans l'industrie comme ailleurs, parfois les comités de direction, il faut qu'il y ait la femme, ça y est, on l'a mise, c'est bon.
C'est la femme token, comme on dit. Et dans le cas de Beyoncé et Taylor Swift, par exemple, il y a 2 ans maintenant, elles ont chacune sorti un film musical tiré de leur tournée respective. Et chacune s'est rendue à l'avant-première du film de l'autre et elles ont posé ensemble devant les photographes. Et clairement, le message envoyé, c'était arrêtez d'essayer de nous montrer comme rivales. On se respecte toutes les deux et il y a de la place pour nous deux. Mais les fans, je trouve, ont du mal. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de réflexes assez rances dans les communautés de fans. Notamment sur cette question de rivalité. Voilà.
Sur le même sujet, Morgane, dans ton livre, tu évoques une scène hallucinante en 2009 sur le plateau des MTV Music Awards.
Oui.
Justement, est-ce que tu peux nous raconter cette scène incroyable
entre Taylor Swift et Kanye West?
Exactement.
Une scène qui est assez parlante de son époque aussi. Donc en 2009, Taylor Swift, qui à ce moment-là est vraiment une artiste country. Elle a déjà sorti 2 albums, dont le 2e, Fearless, se vend à plusieurs millions d'exemplaires. Nous, en France, on a du mal à se rendre compte, mais la country est toujours très populaire aux États-Unis. Et c'est un style qui a vraiment un public très large là-bas. Et en même temps, elle s'est battue aussi pour réussir à commencer par la country parce que personne ne croyait au potentiel d'une adolescente. notamment en se disant bah non, la country c'est surtout des figures masculines d'un certain âge, et encore ça dépend, mais en tout cas voilà, il n'y a pas trop de place pour des jeunes filles, faut attendre un petit peu quand tu seras plus grande. Et elle se retrouve aux MTV Video Music Awards, qui sont en fait la grande cérémonie annuelle où MTV distribue justement les bons points sur qui a eu les meilleurs clips de l'année. Et elle était nommée dans la catégorie meilleur clip pour une artiste féminine. Et c'était la première fois qu'une artiste country était nommée dans cette catégorie. Et il s'avère que c'est elle qui remporte le prix. Donc elle monte sur scène et elle commence un peu à remercier les gens. Et en plus, elle, c'est la première fois qu'elle est invitée au MTV Video Music Awards aussi. Donc elle est très impressionnée. Elle a 19 ans. Elle voit toutes les grandes stars, qui sont encore des stars aujourd'hui, mais vraiment qui à l'époque étaient au sommet, comme Beyoncé ou Pink. Voilà. Et donc Kanye West monte sur scène, donc, qui est un rappeur, qui lui à ce moment-là a 32 ans, si je ne me trompe pas, qui est très connu, notamment en France, on le connaît déjà beaucoup à ce moment-là. Et il lui prend le micro des mains et lui dit « C'est super, bon, je vais te laisser finir, mais moi, j'estime que Beyoncé a fait un des meilleurs clips de tous les temps. Sous-entendu, bah, c'est elle qui devrait avoir ce prix-là. » Et donc, ensuite, il lui redonne le micro et il repart sans rien dire de plus. Et donc, tout le monde se met à huer dans la salle. Et elle est complètement désemparée. Elle ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Et donc, juste, elle repart sans finir son discours. Et en fait, le contexte joue aussi parce que c'est le moment où YouTube existe depuis... on est en 2009, donc ça fait peut-être 2-3 ans. Et la séquence devient virale. En fait, tout le monde veut voir le moment où Kanye West, qui à l'époque est déjà connu pour ses frasques, c'est-à-dire c'est quelqu'un, on sait que voilà, il va entre guillemets vous mettre l'ambiance dans une soirée, quoi. Donc là, tout le monde se dit « Oh là là, j'ai envie de voir moi aussi ». Donc la séquence devient virale sur YouTube, c'est repris partout dans les médias américains, mais même à l'étranger, du coup, grâce à YouTube finalement, et Twitter. C'est un des premiers moments qui montre que Twitter commence à s'imposer comme le réseau social où les gens commentent l'actualité et qui aide à faire connaître en fait un moment en direct. Bref, ça a fait vraiment boule de neige. Et en fait, ça prend des proportions énormes où Taylor Swift, elle, au sortir de la soirée, dit... moi, j'ai pas envie, justement, que ça prenne des proportions, donc j'ai plus trop envie de m'exprimer sur ça. Juste, je suis un peu triste, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, tous les médias en parlent, les JT, plein d'émissions éditorialisées aux États-Unis. Même Barack Obama se retrouve à dire en off que pour lui, Kanye West s'est comporté comme un crétin et qu'il aurait pas dû faire ça. Et puis, l'histoire ne s'arrête pas, ne retombe pas. Kanye West, lui, part un peu dans une espèce de campagne médiatique pour s'excuser. Il s'excuse, il va d'émission en émission en disant qu'aussi, il va pas bien en ce moment dans sa vie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et c'est vraiment une séquence marquante dans leur carrière, en fait, respective et qui les a liés, en tout cas, encore à peu près jusqu'à présent. Et c'est une expérience fondatrice aussi pour Taylor Swift parce qu'elle qui... vraiment se voit comme une gentille fille qui veut faire plaisir à tout le monde, qui a été élevée dans un milieu assez conservateur. Elle est complètement désemparée en se disant « Mais moi, je veux que ce mec approuve ma musique et trouve que ce que je fais est bien et que je mérite d'être là. » Et elle dira beaucoup plus tard par la suite qu'en fait, elle a cherché son approbation pendant très longtemps. Et par la suite, il y a eu d'autres rebondissements assez compliqués, dont notamment où en 2016 on pensait qu'ils étaient réconciliés et finalement Kanye West sort une chanson qui s'appelle Famous dans laquelle il dit Taylor et moi pourrions encore coucher ensemble, pourquoi ? Parce que j'ai rendu cette salope célèbre. Et donc là, grosse levée de bouclier du côté de Taylor Swift qui dit que la chanson est misogyne, qu'elle comprend pas ce qui se passe. Le camp de Kanye West qui réplique en disant non, je t'ai appelé, je t'ai parlé de cette chanson, tu l'as validée. Et sort un extrait de leur conversation qui est enregistré à son insu et qui donne l'impression que c'est le cas. Et là, elle se prend une vague de cyberharcèlement horrible qui fait qu'elle se met en retrait et que même Instagram, à ce moment-là, n'avait pas encore lancé des outils pour filtrer les commentaires. Et ils lancent en catastrophe cette option sur laquelle ils étaient en train de travailler depuis un moment parce que en fait, elle se retrouve notamment à avoir plein de commentaires de serpents, d'emoji serpents, parce que serpent, l'idée de perfidie et de mensonge. Et donc, elle se met en retrait de la vie publique pendant un moment. Et en fait, c'est que, entre-temps, elle a ressorti d'autres albums, notamment où elle essayait de répondre à Kanye West. Mais c'est qu'en 2020, quand l'appel téléphonique a été révélé en entier, on ne sait pas par qui, qu'en fait, on s'est rendu compte que l'extrait qui avait été montré était vraiment très tronqué et qu'en fait non, elle n'était pas au courant qu'il allait employer ces mots-là, etc. Mais c'est un personnage compliqué, Kanye West, parce qu'il y a aussi forcément quand même des politiques raciales qui se mêlent à ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on voit notamment aussi des afroféministes, et ça se comprend complètement, dire vous essayez de diaboliser un homme noir juste parce qu'il donne son avis et parce qu'en face c'est la jeune vierge blanche effarouchée. Et en fait, c'est vraiment une histoire très compliquée parce qu'elle mêle beaucoup de niveaux de lecture. Mais en tout cas, vu ce qu'est devenu Kanye West aujourd'hui, je pense que personne ne pouvait s'y attendre non plus, parce que d'ailleurs, au contraire, il incarnait quand même une figure progressiste pendant longtemps, où il s'en est pris à George W. Bush quand il y a eu l'ouragan Katrina et qu'ils ont mis énormément de temps à se décider à venir en aide à des populations qui étaient majoritairement pauvres et racisées. Mais ouais, c'est un personnage compliqué et je crois qu'aujourd'hui, elle a réussi à peu près à s'en détacher. Mais aujourd'hui il est trumpiste. Enfin voilà, c'est un personnage quoi. C'est un personnage très très compliqué de la pop culture.
Pour revenir sur Taylor Swift, parce que tu as sorti un premier livre sur Taylor et il me semble que tu es en train d'en finir un encore sur cette figure.
Oui.
Tu l'as un peu évoqué. Hein, elle a quand même traversé des phases très différentes, partant de la country girl qui était même beaucoup aimée par le camp Trump. Et puis elle a eu quand même des évolutions aussi elle dans ses prises de position. On a parlé tout à l'heure de Britney qui est finalement représentative de différentes périodes qu'on a pu connaître nous, et je trouve que Taylor Swift peut-être aussi elle a connu des périodes qui peuvent résonner pour les femmes d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait, elle aussi c'est une milléniale et je trouve aussi qu'elle incarne bien sa génération au sens où quand elle a grandi, quand elle était ado, elle a grandi d'abord un peu en Pennsylvanie et puis ensuite dans le Tennessee parce qu'elle a convaincu ses parents de déménager à Nashville pour qu'elle puisse vraiment essayer de percer dans la country quand elle était adolescente déjà. Elle n'a pas été formée aux idéaux féministes du tout. C'est pas quelque chose auquel elle avait été sensibilisée. Même si, par contre, par exemple, ce que je trouve un peu parlant, ses parents ont choisi de l'appeler Taylor alors que normalement c'est un prénom plutôt masculin. Parce qu'il se disait, si plus tard tu fais carrière dans le marketing ou la finance, comme c'était le cas de ses parents, parce qu'elle vient d'un milieu très aisé, tu auras plus de chance avec un prénom neutre plutôt qu'avec un prénom vraiment féminin. Et en fait, elle a dit des bêtises, Taylor Swift par la suite, quand elle était dans sa vingtaine, où elle se disait féministe, mais elle avait du mal à avoir un point de vue plus qu'on dit intersectionnel, donc l'idée de se dire en fait les femmes ne forment pas un groupe homogène, il faut aussi penser en termes de couleur de peau, d'origine sociale, il y a beaucoup de choses, des discriminations qui peuvent justement se croiser les unes les autres. Et finalement c'est aussi quelqu'un qui quand même je trouve fait preuve d'assez d'humilité pour entendre les critiques et essayer ensuite de s'éduquer. Là où par exemple Madonna, pour revenir à elle, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va reprocher à Madonna des petits problèmes d'appropriation culturelle parce qu'elle va porter des tenues qui viennent de telles tribus amérindiennes ou des choses comme ça, elle, ça l'insupporte et elle estime qu'on essaie de la censurer. Taylor Swift, je trouve, en tout cas jusqu'à présent, peut-être que ça changera, mais que c'est quelqu'un qui est plus ouvert à la critique et qui arrive un peu plus à se remettre en question, ou notamment... Elle a reproché à Trump d'avoir attisé la suprématie blanche aux États-Unis et d'avoir attisé puis les violences policières, etc. Mais c'est quelque chose qui lui est venu petit à petit. Et là-dessus, je pense que c'est à l'image de sa génération où, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, Louise, mais où on s'est limite un peu formé, je trouve, via Internet, via les réseaux sociaux. Parce que toutes ces choses-là, on ne nous en a pas forcément parlé à l'école. Ou même aujourd'hui, je pense par exemple à Camélia Jordana, qui est une chanteuse française quand même connue, qui, quand elle ose remettre en cause, enfin dire par exemple, dès que je laisse mes cheveux au naturel, crépus, bouclés, j'ai un peu peur de me faire emmerder dans la rue en France, ou on a un problème avec la police en France, elle va aussi prendre énormément de critiques, parce que c'est pas une histoire qu'on nous raconte à l'école en fait. Et il faut des artistes aussi comme ça pour un peu alerter sur ces questions-là. Mais malheureusement, souvent pour elles, ça se fait au prix de scandales médiatiques et de parfois, je pense aussi peut-être même perdre des projets artistiques. J'ai un peu digressé, je crois. mais tout ça pour dire que je trouve que ces artistes-là, il n'y en a aucune qui est parfaite parce que c'est impossible. Mais chacune à leur manière, en tout cas, je trouve, apporte quelque chose... un édifice plus global pour essayer d'aller vers une société plus inclusive et plus progressiste aussi.
Vous voulez réagir, Rue ?
particulièrement. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, je pense qu'on s'est toutes et tous formés sur le tas, en fait, et tardivement, parce que ces choses-là, effectivement, on ne nous en parle pas à l'école, parce que moi, quand je voulais écrire petite, je ne savais pas que d'autres femmes avaient écrit des livres, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des étudiantes qui sont à Paris 8, à Saint-Denis, quand je leur demande quelles femmes elles ont lues durant leurs études, donc 15 ans dans l'école de la République, bah, elles ont du mal à répondre. Donc j'ai l'impression que... Alors évidemment, ça change. Évidemment, il y a des enseignantes, des enseignants qui font un travail pour que ça change, mais j'ai l'impression que quand même, notre génération, on s'est vraiment formé tardivement à ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il y a tout le temps des réinterprétations et que moi qui pensais avoir bien avancé dans mon féminisme, et bah, c'est qu'à 30 ans que je réalise que bah, Britney Spears, elle doit aussi en faire partie et que je dois la réintégrer. Enfin, j'ai l'impression que c'est voilà, tout le temps des réajustements, des mises en perspective et qu'effectivement, il y a pas mal d'artistes qui vivent ça et qui arrivent à s'auto-critiquer. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, bah, on parlait de ça, mais moi, je suis très fan de Lana Del Rey. Et en fait, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus quand même dans l'industrie musicale des figures de femmes qui s'entre-soutiennent. Donc Lana Del Rey et Taylor Swift sont très proches, enfin qui vont plutôt se soutenir que chercher à se descendre ou être en compétition. Et ça, c'est quand même assez rassurant.
Mais oui, je voulais réagir sur Beyoncé parce que on parle de star d'influence et pour le coup, elle, on a l'impression qu'elle contrôle tout, quoi, toute son image. Et dans ton livre, tu évoques ce fameux clip qu'elle a réalisé au sein du Louvre.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce qu'il est assez exceptionnel.
Oui, en fait, donc Beyoncé, elle est mariée depuis longtemps au rappeur Jay-Z. Avec lequel elle avait d'abord fait une tournée commune et puis finalement en 2018 ils ont sorti un album commun pour la première fois sous leur nom de famille en fait qui est Carter, donc qui s'appelle The Carters, et ils tournent un clip au Louvre où ils choisissent une chanson qui s'appelle Ape Shit, qui en gros c'est un peu un ego trip en tant que couple, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un power couple, c'est-à-dire un couple qui est très très puissant parce qu'ils ont chacun des carrières très très impressionnantes, et ils décident d'aller au Louvre et de tourner au Louvre et de notamment plutôt valoriser des peintures où on voit des personnes noires, des corps noirs, et où on se rend compte aussi que dans toute cette peinture classique à laquelle on tient beaucoup, notamment en Europe, bien sûr, il y a un déséquilibre total dans la représentation entre personnes blanches et personnes noires ou métisses, où souvent elles sont peintes dans des positions d'esclaves notamment. Et on a ce couple-là, noir, qui vient et qui s'installe au milieu d'un des joyaux culturels du vieux monde, entre guillemets, quoi, et qui vient imposer sa vision et se mettre au même niveau, en fait, aussi, que toute cette culture classique. Et donc c'est un clip que je vous invite à voir parce qu'il est très beau. Et aussi, en plus, il y a plein de danseurs qui ont des tenues couleur chair, mais comme du coup, ils ont aussi des couleurs de peau différentes. Enfin, ça donne quelque chose de fort aussi dans ce lieu qui est à nouveau le lieu d'une culture classique, mais du coup, une culture très blanche. Et ils avaient fait privatiser le Louvre, du coup, pour ça. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il faut réussir à le faire, quoi. Et c'est un couple qui, d'ailleurs, bon, c'est marrant, dans la chanson, ils disent qu'ils en ont rien à faire des Grammy Awards, donc de la reconnaissance officielle. Et puis, quelques années plus tard, l'année dernière, on a Jay-Z qui reprend la parole, parce qu'il en a marre que sa femme n'ait jamais eu le Grammy de l'album de l'année, qui est vraiment le Graal de toutes les récompenses musicales qui existent. Et d'ailleurs, elle a fini par l'avoir cette année pour son album Cowboy Carter. Donc, je les trouve assez rigolos, parfois, les Carter, quoi, parce que ils sont à la fois très, très au-dessus, mais en même temps, ils ont quand même envie et besoin de cette reconnaissance-là, ce qui se comprend. Donc, ils sont dans un entre-deux aussi assez intéressant, je trouve, à naviguer.
Pour revenir justement sur Beyoncé, est-ce que tu pourrais nous parler de son rapport à ce qu'on appelle l'afroféminisme? Et puis, voilà, ces prises de position. Dans ton livre, tu expliques que notamment, y a certaines femmes afro-américaines qui peuvent être plus sensibles au discours de Beyoncé que d'une politicienne, sénatrice noire. Ça va plus leur parler. Et comment elles se positionnent? On a parlé beaucoup de féminisme tout à l'heure, mais quand même, beaucoup de féminisme blanc, aisé. On parlait de Taylor Swift qui vient d'un milieu très riche. Comment elle s'est positionnée là-dedans, avec bien sûr forcément des limites, parce qu'on est toujours complexe, on l'a dit tout à l'heure.
ça lui est venu petit à petit aussi, pareil, hein, finalement, Beyoncé. C'est-à-dire que même quand on regarde les chansons des Destiny's Child, à la base, qui ne se voyaient pas comme féministes, mais qui quand même encourageaient les femmes à l'indépendance, notamment à l'indépendance financière, qui quand même reste malheureusement le nerf de la guerre dans notre société capitaliste, qui encourageait les femmes, là aussi, à de la sororité, comme pour les Spice Girls, ou aussi à être exigeantes envers leurs partenaires. Ça, ça s'inscrivait finalement aussi dans une lignée d'autres grandes chanteuses avant elle, comme Aretha Franklin, quand elle reprend Respect et qu'elle en fait une chanson féministe. Ça lui est venu, on va dire, en fait, officiellement, c'est en 2013 qu'elle se dit féministe, où là, c'est un moment fondateur parce que c'est la première fois qu'une pop star se dit féministe, parce que Madonna, de son côté, elle a mis énormément de temps, des décennies à se dire féministe, à se réapproprier le mot. Beyoncé, elle le fait en 2013. Et 3 ans plus tard, en même temps, elle dit, par contre, attendez, c'est pas parce que je suis féministe que j'en oublie le racisme et les causes antiracistes. Et donc, elle relève vraiment d'un afroféminisme, c'est-à-dire qu'elle met sur le même plan les combats antisexistes et antiracistes, parce que notamment, elle fait forcément l'expérience de ce qu'on appelle la misogynie noire, c'est-à-dire ce sexisme très particulier que vivent les femmes noires ou métisses du fait de leur couleur de peau, où elles vont pas être exposées au même type de sexisme, en fait, par-dessus, notamment dans le cas de Beyoncé, qui est quelqu'un qui se sexualise beaucoup. Il y a quelque chose de très frondeur, parce que dans l'histoire des États-Unis, mais bon, nous, ça peut être le cas aussi en Europe, bien sûr, la fétichisation du corps des femmes noires fait qu'une femme noire qui se sexualise, on va pas le voir de la même manière que quand c'est une femme blanche. Et ça, c'est quelque chose qu'elle revendique beaucoup. Et en même temps, ce que j'explore dans mon livre, c'est quelqu'un qui divise beaucoup les féministes, même au sein des afroféministes, parce que certaines sont dérangées par son hypersexualité. D'autres, au contraire, disent non, justement, elle pousse les femmes noires à ne pas avoir honte de leur sexualité, de leur sensualité, de leur corps. Et c'est pareil, c'est vraiment aussi une artiste qui est sur une ligne de crête et qui essaye de slalomer entre plein de choses différentes et difficiles. Mais en tout cas, on voit qu'elle représente quand même un exemple pour beaucoup de femmes noires, même si la limite notamment, et en réalité du féminisme de beaucoup de pop stars, c'est que ça s'inscrit dans une démarche très néolibérale où il n'y a pas de remise en cause du système, où c'est finalement souvent quelque chose de très individualiste, où l'idée, quand on veut, on peut, il faut juste beaucoup travailler, puis tu vas réussir, regarde, même moi, j'ai réussi à aller au-delà des obstacles sexistes, racistes, etc. Donc il manque souvent quand même encore un peu plus d'une conscience de classe, quoi, qui disparaît, et notamment une fois qu'elle devient très riche, quoi. On voit à ce moment-là souvent quand même un switch. Une des seules, alors qui n'est pas une pop star, mais qui est une rappeuse très connue, Nicki Minaj. Nicki Minaj, de son côté, peut un peu parler de ces sujets-là, mais notamment, bien sûr, là maintenant je n'ai plus son nom, Cardi B, qui par exemple avait soutenu Bernie Sanders, pas la dernière présidentielle, mais celle d'il y a 4 ans encore, et qui, elle, pour le coup, a grandi dans la misère, en plus a été stripteaseuse à une époque parce que c'était un moyen facile de gagner de l'argent, et qu'elle avait besoin de gagner beaucoup d'argent parce qu'elle était coincée avec un homme violent. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, s'interroge sur son rapport à l'argent aujourd'hui, où elle dit... je suis millionnaire, parfois je me demande un peu à quoi ça rime, et qu'est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal que j'ai autant d'argent, et elle n'oublie pas, entre guillemets, d'où elle vient, et elle essaye de... Enfin voilà, c'est quelqu'un qui réclame, par exemple, une meilleure sécurité sociale aux États-Unis, ou l'éducation gratuite, et ça c'est encore très rare, malheureusement, chez les stars aujourd'hui, même celles qui se disent très féministes, que ça rejoigne d'autres questions sociétales, en fait. Souvent on reste quand même, mais bon, c'est aussi une logique très américaine...
Oui, il y a un autre thème aussi qu'on voulait aborder avant de passer peut-être à un temps de questions-réponses avec le public. C'était le thème de MeToo. C'est un mouvement qui a émergé en France en 2018. Là, on est 7 ans après. Visiblement, dans la musique, ça a mis quand même beaucoup de temps à émerger, alors qu'il y a eu des cas très célèbres de violence. Alors, on a tous peut-être en tête le décès de Marie Trintignant. C'était en 2003, donc c'était quand même, c'est quand même un certain temps, hein, sous les coups de son de son conjoint, dont j'ai oublié le nom, mais
Bertrand Cantat.
Voilà, Bertrand Cantat. Faut-il en parler, je ne sais pas. Donc, est-ce, enfin voilà, quand est-ce que ça s'est, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien, on évoquait, voilà, un crime passionnel. On n'a jamais théorisé autour de ces violences systémiques qui sont faites aux femmes, mais quand est-ce que alors que Lio l'a dénoncé très tôt.
Lio, chanteuse pop, pour revenir un peu sur la thématique, chanteuse pop qu'on dit, elle est un peu nunuche avec ses chansons sur les bananes, et en même temps c'est une des premières à prendre la parole sur ce drame, et encore une fois une précurseuse
et à s'en prendre plein la tête à l'époque, quoi, d'ailleurs,
quand et encore aujourd'hui, même et si aujourd'hui je pense que ça change le regard sur Lio. Peut-être, Louise, elle devait être, elle a perdu son fils malheureusement, mais elle devait être au Pop Woman Festival, et je trouve que pareil, elle a eu une réhabilitation un peu comme Britney Spears, en fait, hein, Lio.
Oui, bah, je pense que effectivement, bah, elle a une réhabilitation aussi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça passe par le fait que ces personnes, ces femmes, vont trouver les mots pour dire les choses, en fait, et plus être seulement dans des intuitions qu'elle pouvait avoir. Mais ça, je crois que c'est aussi grâce à, enfin, ce qu'a permis vraiment MeToo, qui d'ailleurs a été lancé par une femme noire avant aux États-Unis. Mais le mouvement n'a pas pris, et il a été récupéré par l'actrice de Buffy, d'ailleurs, c'est ça, non?
Alyssa Milano.
Voilà,
Charmed.
Voilà. Mais en tout cas, ce hashtag avait déjà été lancé avant par une femme noire. En tout cas, je pense que ce qui se passe avec ce mouvement MeToo, c'est qu'en fait, la libération de la parole amène la libération de la parole. Et donc, en fait, je pense que chacune, moi je trouve ça très très beau, c'est-à-dire que dans le cas de Britney Spears, c'est parce qu'elle a pris la parole que moi je me suis sentie aussi après habilitée à prendre la parole, que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et donc c'est quand même assez fou ce qui se passe à échelle planétaire, même si en fait il y a encore beaucoup de chemin à faire, notamment en France, je pense particulièrement au cinéma français. Enfin, on est très très en retard sur ce mouvement MeToo. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se joue effectivement d'une libération de la parole qui, pour moi, n'a rien à voir avec un tribunal médiatique. Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est pas du tout ces questions-là qui sont en jeu. Quand les noms sont donnés et quand les choses sont dites, il s'agit pas de jeter des personnes en prison. Il s'agit juste de, effectivement, se donner une force mutuellement entre personnes aussi qui ne se connaissent pas, entre personnes qui sont ultra isolées. Et j'ai l'impression que ce que tu disais, que aujourd'hui des pop stars arrivent à parler, c'est qu'en fait d'autres avant l'ont fait. Et c'est vraiment un chemin. Et moi, c'est pour ça que je fais de la littérature. Et ça m'a toujours semblé très important de dire les choses telles qu'elles étaient et de faire circuler la parole. Et je crois que c'est ce qu'on voit, des alliances, effectivement. Donc en fait, Lio qui d'un coup, je veux dire, devient féministe. Mais c'est pas qu'elle devient féministe, c'est qu'en fait, intimement, elle l'a toujours été, mais qu'en fait, l'isolement dans lequel chacune des personnes est dans sa carrière, dans ses relations, voilà, rend les choses très compliquées. Et pour revenir au cas de Marie Trintignant, moi j'ai grandi dans un monde dans lequel effectivement on parlait de crimes passionnels, et autour de moi, je veux dire, j'entendais des choses comme oui, c'était un mauvais coup qui est parti, alors que c'est pas un coup, c'est de très nombreux coups. En fait, c'était ce qui était dit autour de nous. Et effectivement, Lio, quand on regarde cette séquence, enfin, je veux dire, le courage qu'il faut, enfin, le courage, bien sûr, oui, en fait, il faut du courage, mais il a fallu très longtemps, et il faut encore, enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à voir ça comme ce que c'est-à-dire un féminicide, et non pas un crime passionnel. Et voilà, je pense que ça, c'est... Bon, moi, j'étais au Québec, j'ai l'impression qu'on est très en retard en France, quand même.
Oui. Enfin, ne serait-ce que par rapport au Québec, les questionnements sur les études de genre, en fait, ont dépassé aussi le giron académique depuis longtemps. Ouais. Nous, en France, c'est compliqué de réussir à les faire rentrer, je trouve, dans la sphère publique encore. Il y a quand même une résistance, et de la part de journalistes aussi, hein, d'ailleurs. Hein, je pense que c'est important de le dire. Et dans le cadre de Marie Trintignant... À l'époque, on l'a vu comme un fait divers fou, parce que c'était deux personnalités très connues, et qu'on a une fascination pour la violence dans les relations amoureuses, entre guillemets, notamment en France, je trouve, où bon, c'est peut-être un peu cliché, mais on est voilà un pays très latin, enfin l'idée de la passion, etc. Et Lio, à l'époque, a été vraiment la seule à, notamment, en fait, c'était une séquence dans Tout le monde en parle chez Thierry Ardisson, où elle s'est énervée. Je crois que le jour-là, c'était une écrivaine d'ailleurs qui venait parce qu'elle publiait un livre de correspondance avec Quentin depuis la prison. Et donc, il y avait clairement une romanisation de ça et de cette figure-là. Et Lio, en fait, pète un plomb, quoi, sur le plateau en disant « Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? C'est hyper grave. » Et elle essaye d'instaurer un dialogue. D'ailleurs, c'est intéressant avec cette femme qui est complètement fermée, quoi, et qui ne veut pas entendre, sachant que Lio, de son côté aussi, avait subi des violences conjugales. Donc, j'imagine que c'est aussi ça qui a pu, dans son cas, la sensibiliser à ces sujets-là. Et puis, Marie Trintignant était une de ses amies. Mais là-dessus, par exemple, le podcast Programme B, on peut trouver ça assez facilement en ligne, avait consacré, je crois, 3 ou 4 épisodes au traitement médiatique à l'époque autour de l'affaire Trintignant. Et je pense qu'il faut l'écouter, parce qu'on a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ans à peine, on disait des choses absolument horribles. C'est-à-dire que même dans la scène rock, par exemple, on avait plus de peine pour Bertrand Cantat que pour Marie Trintignant, parce que les gens se disaient, il est fauché en pleine carrière.
Mais aussi comment il va faire pour survivre, il a tué la femme qu'il aime.
Oui, exactement.
C'est vraiment des choses qu'on entendait de comment il peut se remettre de ça, en fait. Il a tué, mais en fait... Enfin, je pense que c'est voilà, mais même des, bah effectivement, tu rappelles ça, mais même des femmes qui tenaient ce genre de discours. Mmh. Et
Et puis ou aussi le fait que Quentin représentait le rock de gauche, le rock social, les gens se disaient, on peut pas se passer de lui, on a besoin de lui en fait. Et oui, bon d'accord, il l'a tué, mais bon. Il y a toujours cette idée, de toute façon, les femmes sont la variable d'ajustement où on est vraiment le dommage collatéral, c'est pas très important, quoi. Et on sentait vraiment ce côté, enfin, il y a eu des... Et ça, vraiment, je vous invite à écouter ces épisodes de Programme B qui en parlent, qui est fait par le studio Binge Audio, où Rock and Folk, à l'époque, si je me trompe pas, avait signé un édito... En disant, mais mon Dieu, il faut que tu cites les bars de ta prison, il faut que tu reviennes avec nous, ta place est parmi nous... Et enfin, personne ne s'est meuvé de la mort de Marie Trintignant, où en plus on a essayé de faire croire que c'était un truc de classe, parce que Bertrand Cantat venait d'un milieu pauvre, qu'elle venait d'un milieu artistique et bourgeois, et que lui il était mal dans sa peau, et que du coup ça pouvait pas fonctionner entre eux.
L'artiste torturé un peu.
Ah oui, complètement. Oui, complètement. Et puis Bertrand Cantat, je trouve, reste aujourd'hui une grande tache noire, encore aujourd'hui, parce que son ex-femme s'est quand même suicidée aussi, il y a quelques années. Il y a eu des enquêtes aussi menées par Anne-Sophie Jeanne, notamment, qui est une journaliste qui a écrit un livre là-dessus, qui a fait des enquêtes à la base pour Le Point, qui montre qu'un des membres de Noir Désir a reconnu qu'il a menti à la justice pour Quentin. Il a tué le fait qu'il avait déjà été violent avec d'autres campagnes. Enfin, c'est vraiment un cas d'école. Et malheureusement, on n'avance pas trop par rapport à ce sujet-là, je trouve, même si il y a des journalistes qui font le travail.
Parce que justement, je sais plus où j'ai lu ce matin, ils ont fait une enquête et ils ont comparé le nombre de fois où le mot crime passionnel et le mot féminicide étaient utilisés. Ah, je sais plus dans quoi je l'ai lu. Mais du coup, ils montrent que ça y est, il y a eu une bascule, en tout cas pour l'année 2024, où le mot féminicide a été plus utilisé dans la presse que le mot... amour passionnel, crime passionnel, en disant bon, effectivement, mais ça a été un long travail, effectivement, des associations féministes depuis des années pour enfin faire en sorte que le mot féminicide devienne un mot commun dans les articles de presse.
Ouais. Et c'est pour ça que, et je pense que c'est là que notre travail se rejoint avec Louise, c'est important de s'intéresser à comment on traite les célébrités et comment on réagit à ce qui leur arrive, parce qu'on projette beaucoup de choses sur elles. Et que finalement, c'est un peu comme... Elles servent un peu, je dis parfois, pas de pantin, mais d'un peu d'épouvantail, où elles prennent tout, de paratonnerre. Elles prennent tout et on projette tout sur elles. Et la manière dont on a réagi par rapport à Marie Trintignant ou Quentin, ça dit quelque chose de nous. La manière dont on a réagi par rapport à Britney, ça dit quelque chose de nous. On projette énormément de choses. C'est un peu tout est magnifié, fois 1000, fois 10 000. Et en fait, c'est une porte d'entrée pour parler de plein de sujets de société après et derrière.
Je trouve que c'est une belle phrase de conclusion. Et justement, ça parle de nous. Bah, on va vous laisser la parole. Si vous avez envie de poser des questions à nos deux invités, n'hésitez pas.
Bon, je ne sais pas si ma question aura un intérêt pour être passée sur Studio Z. En fait, c'est une question qui s'adresse à Louise concernant Britney. Je ne sais pas si vous avez vu la série. Est-ce que vous nous conseillez de la regarder ou je souhaiterais avoir votre avis sur cette série.
Oui, complètement. Je pense que c'est aussi très intéressant pour les personnes qui n'ont pas les images en tête. Parce que moi, toutes les images, je les connais. Mais je trouve que on se connaît avec la réalisatrice. Elle est venue à ma première rencontre en me disant « Mais tu sais, moi, je travaille sur un film sur Britney et j'ai lu ton livre. » Et je pense qu'on a la même expérience. La forme n'est pas du tout la même, mais je pense qu'elle resitue bien, de manière très claire et très concise, ce qui est arrivé à Britney. On n'a pas du tout la même approche, puisque moi, ça reste un livre de littérature. Et donc, ce n'est pas un travail documentaire, on va dire. Et voilà, elle est chercher dans des archives en montrant bien... Oui, tout ce qui lui est arrivé. Donc oui, je pense que c'est des travaux qui sont complètement complémentaires.
La série est disponible,
Arte.
C'est sur Arte, ok.
Bonjour à tous, merci pour vos interventions qui ont été passionnantes. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est vraiment une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire, c'est sur les actes. Quand on fait la comparaison finalement entre les actes de certains chanteurs et musiciens, dont je ne citerai pas les noms, mais qui sont des actes du coup de meurtre, qui sont... parfois pour d'autres, des actes de violence faites aux femmes ou aux enfants. Et à quel point, en fait, on cherche à ne pas les enfermer, à les réhabiliter, ou quand ils sont enfermés, à les sortir de l'enfermement, de façon de la société, de façon générale, hein, je dirais. Et quand on voit les actes, vraiment, qui me paraissent, non seulement qu'ils ne sont pas punis par la loi, mais de se raser le crâne ou de taper avec un parapluie sur une voiture, et qu'on voit l'acharnement pour enfermer... ces personnes-là, ces musiciennes et ces chanteuses, l'acharnement de la société pour les garder enfermées, pour les garder aliénées, c'est une réflexion que, en tout cas, la soirée de ce soir m'amène et je vous en remercie.
Oui, là-dessus, si vous voulez, moi je peux citer Depardieu, par exemple, qui n'est pas un chanteur, mais le président de la République... dit quand même à la télé que Depardieu rend fière la France. Je veux dire, c'est et quand même, on se heurte. Je pense que c'est important de voir ça parce qu'on entend aussi beaucoup de gens dire « C'est bon, MeToo, c'est fini, on en a assez parlé, voilà, c'est bon, on passe à autre chose. » Mais en fait, on est qu'au tout début et en fait, on se refuse complètement. Enfin, je veux dire, et surtout, il y a un mécanisme en place de la victimisation de l'agresseur. Où tout de suite, c'est « Oh, le pauvre !» Gérard Depardieu est assis sur des millions. Il a mené une carrière, qu'il devait mener. Et aujourd'hui, on est là « Oh, le pauvre Gérard !» Mais quand même, vous vous rendez compte, il est exclu de la société. Il a violé une gamine qui n'était même pas majeure. Enfin, je veux dire, et c'est assez fou que dans ce pays, encore aujourd'hui, la présomption d'innocence veuille dire qu'en fait, on croit souvent que les victimes mentent. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Quand le président de la République la défend, ça veut dire que... Mais dans ce cas-là, la présomption d'innocence s'applique aussi à la victime. Et donc, si elle est innocente, elle dit la vérité. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un retournement complet des logiques avec ce truc, comme avec Bertrand Cantat, de dire « Ah, mais le pauvre, quand même, quoi. Quand même, c'est difficile. » Et moi, j'ai aussi du mal à comprendre pourquoi ces hommes-là n'arrivent pas à dire... À prendre conscience et à dire aussi, je veux dire, j'ai l'impression que les choses pourront aussi changer et que le dialogue pourra s'instaurer quand les personnes qui commettent ce type d'actes sont aussi capables de les reconnaître. De la même manière que d'un point de vue féministe, on peut reconnaître les torts qu'on a eus vis-à-vis d'autres femmes, on peut reconnaître des choses dont on a honte. J'ai l'impression que de l'autre côté, il y a une sorte de mur qui est face à nous. Et en fait, toute la société se dresse vraiment pour pas que les choses changent. Donc, effectivement.
Je suis comme vous. Moi, j'ai pensé à Depardieu quand je vous écoutais. Mais on peut aussi boycotter. Donc, on peut très bien ne pas aller voir les films. On a quand même un rôle à jouer, nous aussi, en tant qu'acteurs.
Tout à fait.
On le disait tout à l'heure par rapport aux disques qui ont été refaits. Mais là, c'est exactement pareil, parce que c'est pas acceptable. Et puis la condition des femmes et de la violation, ça fait longtemps. Enfin, je veux dire, si on pense à Tina Turner, si
oui,
on
tout
pense
à, fait.
À
tout
Amy Winehouse par oui. avec son père. Enfin, je veux dire, oui, c'est et le manque d'intimité, même Brigitte Bardot qui a pas pu accoucher correctement. Enfin, je veux dire, c'est on a affaire parce que c'est un poids qui date depuis de nombreuses années, quoi.
Je peux juste dire, rebondir juste sur Depardieu. Moi, les valseuses, j'ai jamais pu le voir. J'ai toujours eu peur de le voir parce que je savais que ça allait être trop violent pour moi.
Moi, j'ai tenu 30 minutes, je pense.
Voilà.
Et l'autre jour, j'ai pas compris. Je me suis engueulée avec mon mec de l'époque en lui disant, mais comment tu peux regarder ce film? Voilà. Je comprenais pas et je ne comprends toujours pas à ce jour pourquoi est-ce qu'on met ce film sur un piédestal.
Voilà. Et en fait, l'autre jour, j'en ai vu un autre, je crois, c'est Tenue de soirée. Enfin, un copain m'a montré. En fait, il n'y a que des blagues sexistes, homophobes qui mettent en scène le... Enfin, en fait, du coup, on se dit, quand on parle des grands rôles de Depardieu et qu'on voit ça, et qu'on se dit que c'est à ça qu'on pense quand on défend Depardieu, mais en fait, je veux dire, dans ces rôles-là, il joue déjà... Enfin, c'est... Moi, pareil, Tenue de soirée, j'ai regardé 10 minutes et j'ai dit... Ah ouais, mais en fait, enfin, tout était déjà là. Mais de toute manière, la femme de Blier maintenant parle aujourd'hui et dit, mais évidemment que ce mec-là était des agresseurs, était des prédateurs, et que moi, j'ai été témoin de ça à l'époque. Donc, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Et cette histoire de séparer l'homme et l'artiste, enfin, à un moment, il y a aussi des hommes qui font des œuvres sublimes et dans lesquelles ils ne mettent pas en scène des violences faites aux femmes. Ça existe. Enfin, je veux dire, tous les hommes ne sont pas Gérard Depardieu, et donc on peut aussi décider effectivement de boycotter ces œuvres-là. Mais c'est surtout que quand on les regarde, moi je suis tellement estomaquée de ce que je vois, ça me semble tellement insoutenable, même de bêtises crues, que bon, voilà, c'est...
J'aime bien ce que tu viens de dire, mais au lieu de parler de ces sujets-là, valorisons les œuvres où effectivement il n'y a pas de traitement misogyne.
Parce que parfois, il y a plein d'hommes qui ont fait des femmes sublimes, en fait, qui ne sont pas oubliées, et il y a plein d'acteurs qui ne sont pas Gérard Depardieu aussi. Enfin, je veux dire, du coup... Enfin,
c'est comme le monde de l'humour aussi, où vous avez certains humoristes aujourd'hui qui disent on peut plus rien dire, nanana, mais on peut tout à fait être drôle sans être problématique, vraiment. C'est juste que vous ne savez pas le faire. C'est ça le vrai problème. Mais on peut le faire. Il y en a des tonnes des humoristes, dont des mecs aussi, qui sont extrêmement drôles et qui sont très progressistes et qui savent très bien faire la part des choses. En fait,
qui ça leur viendrait même pas à l'idée. Et tout à fait. Parce que parfois, on a l'impression que oh non, mais ce sera pas drôle. Et quand on va être provoquant, c'est forcément pour taper sur quelqu'un, une minorité.
Oui, ouais,
non, en fait, on peut être grinçant, on peut aller titiller et en respectant les autres. Quoi.
Ouais.
Ouais, j'avais une question par rapport à... En fait, j'étais preneuse d'avoir votre intervention sur et votre point de vue sur la notion de gaslight. Nous, on peut être victime, beaucoup de femmes dans la pop culture, que ce soit des actrices de cinéma ou de chanteuses. Et voilà, j'étais curieuse d'avoir votre point de vue.
Ouais, alors le gaslighting, c'est l'idée... Enfin, ça vient d'un film qui s'appelle Gaslight, qui est sorti dans les années 50 ou 60, je ne vais pas dire de bêtises. Où en fait, l'idée du gaslight, c'est de... En gros, c'est... Quand vous vous faites manipuler par quelqu'un, enfin que quelqu'un nie ce qu'il a fait et vous dit non, tu n'as pas compris, ou je n'ai pas fait ça, ça ne s'est pas passé. Et donc c'est vraiment le volute de fumée, c'est l'idée du gaslight, quoi. C'est quelqu'un qui vous enfume, en gros.
Mais juste pour illustrer, c'est vraiment en fait le type qui éteint les lumières dans l'appartement de sa femme et qui lui dit mais non, pas du tout. Enfin, et elle se retrouve dans l'obscurité. Enfin, juste pour illustrer vraiment. Et en fait, c'est une évidence, quoi. Et en fait, la personne en face manipule en disant, mais absolument pas, tu deviens folle.
Oui, voilà, tu deviens folle. Et comme tu prêtes crédit à cette personne, tu la crois au bout d'un moment et tu viens à douter de ton raisonnement et de ton discernement. Le gaslighting, bah oui, dans la pop culture, on le retrouve aussi. Enfin, par exemple. Moi, j'estime que Justin Timberlake, il a gaslighté tout le monde, avec ne serait-ce, Britney, mais aussi la pauvre Janet Jackson. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu cette affaire où ils ont joué au Super Bowl ensemble et il lui a arraché son corset, et ce qui était prévu, mais en fait, normalement, elle devait avoir un bout de tissu en dessous et en fait, tout est parti. Ça, c'était pas prévu du tout, et il l'a complètement abandonné. Il l'a laissée face à la meute où tout le monde s'en est pris à elle, alors qu'en plus c'est absurde, on voit que c'est un accident, on voit que quand elle sort de scène elle est pliée en deux et que clairement elle va pas bien, néanmoins c'est quand même elle qu'on a traînée dans la boue, tout comme il a gaslighté tout le monde par rapport à Britney.
Sa carrière s'est arrêtée, hein, Janet Jackson à ce moment là
mais oui, complètement, sa carrière s'est complètement arrêtée, tout à fait, plus personne ne voulait entendre parler d'elle, et à l'époque elle a tenu tête, c'est-à-dire qu'on lui avait demandé de s'excuser, elle avait dit mais je n'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit, je n'ai rien fait, c'est pas ma faute. Et il a gaslighté tout le monde par rapport à Britney en disant qu'elle l'avait trompé. Enfin, il a même fait un clip autour de ça pour le clip de Crying, Cry Me a River, où il a engagé une sosie de Britney. Enfin, voilà, on la voit que de dos, mais on comprend très bien qui elle est censée représenter. Et il a présenté des plates excuses il y a 2 ans. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu notamment le documentaire du New York Times.
Ouais, et le livre aussi.
Et le livre, de Britney. Et puis New York Times aussi qui s'est réintéressé, parce que c'est ça aussi, MeToo, c'est aussi une remise en cause des médias qui se disent bon attendez, il faut peut-être qu'on revienne quand même sur des épisodes pas très heureux où on est vraiment, on a été complètement nuls, et allons en fait vraiment donner la parole à ces femmes-là et un peu revoir avec nos yeux d'aujourd'hui des choses qui parfois sont pas si vieilles, hein, finalement, voilà, c'était il y a 20 ans, pareil, c'était hier. Et il a donné des plates excuses sur Instagram, mais parce qu'il sentait que le vent était en train de tourner. Ça lui posait aucun problème à l'époque d'être très, très désagréable vis-à-vis de Britney en interview radio, ou notamment à l'époque où elle prétendait qu'elle allait rester vierge jusqu'au mariage. Et c'est lui qui a dit « Ah ben non, moi je me la suis tapée, hein. Je peux vous dire qu'on a passé 2 ans ensemble, voilà. » Et il savait très bien ce qu'il faisait à ce moment-là.
Il savait très bien qu'il allait mettre sa carrière en danger et l'humilier aux yeux de l'Amérique entière aussi.
Oui, complètement, oui, oui. Donc on peut avoir, même nous en tant que public, en fait, on peut se faire gaslighter, ou comme ça rejoint le fait que les hommes violents sont sans cesse réhabilités, ou Brad Pitt, tout le monde est complètement passé, outre le fait qu'il a quand même été accusé de violence sur Angelina Jolie et leurs enfants, où il y a un rapport du FBI qui est accablant, un récit très détaillé où on voit que voilà, il a pris Angelina Jolie à la gorge dans un jet privé, qu'il a lancé des trucs sur leurs enfants. Mais tout le monde a oublié et on est complètement passé à autre chose. Et aujourd'hui, il revient au cinéma, l'air de rien. Il a changé de look. Enfin, ça a été. Enfin, c'est quelque chose qui a été noté aussi. Il a changé de styliste. Il est devenu beaucoup plus stylé qu'avant. Donc, ça permet aussi de dévier la conversation sur autre chose. Et c'est là aussi que nous, je pense, en tant que journaliste et autrice, on peut jouer un rôle de ramener vers l'essentiel et de dire attention, n'oublions pas. N'oublions pas, en fait. Et c'est comme ce que tu disais, Louise, sur le fait que ça commence à peine, en fait, MeToo. Ça commence à peine. On a à peine effleuré. Et on voit bien, de toute façon, la résistance qu'il y a à chaque fois, dès qu'une nouvelle affaire sort, ou que ce soit avec Judith Godrèche, qui a été hyper courageuse d'ouvrir le sujet de la maltraitance des enfants dans le cinéma et du fait qu'ils sont livrés à eux-mêmes. C'est d'ailleurs aussi un sujet qui est abordé en ce moment aux États-Unis. Mais ça prend du temps et oui, on est vraiment qu'au début.
Alors, c'est peut-être une question un peu benette, mais...
Il n'y a pas de question.
Jamais de question bête.
C'était par rapport à ce que vous aviez dit, au fait que chacune de son côté, Britney Spears, Taylor Swift, montre leur individualité, leur individualisme, et en même temps montre des femmes... forte. Est-ce que vous pensez que malgré leur individualité, elles peuvent toutes ensemble être un rempart contre l'hypermasculinité qui monte aux États-Unis, entre autres ?
C'est une bonne question. C'est une question compliquée. Par exemple, je trouve ce qui est assez parlant aux États-Unis, c'est que tout le monde a pris Trump à la rigolade au milieu des années 2010. Quand il s'est présenté, personne ne croyait au fait qu'il allait gagner. En plus, à l'époque, Hillary Clinton avait toutes les personnalités derrière elle. Elle avait vraiment multiplié les apparitions, même dans des séries télé. Enfin, ils avaient vraiment essayé d'en faire un personnage de pop culture, limite, très cool. Je pense un peu dans la lignée de Barack Obama, finalement. Et c'est Trump qui a gagné. C'est Trump qui a gagné, alors qu'à cette époque-là, aucune personnalité d'envergure ne le soutenait. Et au contraire, parce qu'il a joué le côté anti-pouvoir, anti-establishment, ce qui là aussi est une forme de gaslight, parce que le mec est né dans une famille très aisée et que son père lui a prêté plusieurs millions de dollars pour démarrer sa carrière, donc voilà. Mais bon, et là encore cette fois-là où il a été réélu, malgré le fait que pas mal de célébrités ont pris la parole, que même Taylor Swift aussi, dont la vie est toujours très attendue, quand il y a une élection présidentielle, bah, le fait qu'elle ait appelé à voter Kamala Harris n'a pas suffi. Et au contraire, je pense que les États-Unis sont vraiment dans une période très critique où on a l'impression que c'est limite perdu d'avance, où plus des voix progressistes essayent de se faire entendre, plus ça énerve et plus il y a une réponse hyper forte derrière. Je pense que ça reste important pour ces célébrités-là, pardon, quand même, d'essayer de parler, notamment de faire front commun. Dans son cas, Taylor Swift, d'ailleurs, elle qui au début pouvait avoir tendance à mettre en scène la rivalité amoureuse dans ses chansons, aujourd'hui revendique une envie de sororité avec ses pairs, au sens les autres pop stars, et elle dénonce le fait qu'on essaye toujours de monter les pop stars les unes contre les autres et qu'il faut dépasser ça. Elle notamment, qui pendant une époque, pendant plusieurs années, a eu une espèce de rivalité avec Katy Perry. Et elles ont vraiment mis ça derrière elles maintenant. Donc je pense que ça reste positif parce que on a quand même besoin, je pense, d'espoir et de modèles à admirer. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, malheureusement. Mais parce que je pense que là, ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement grave en ce moment et c'est un retour de bâton, backlash, comme on dit, extrêmement puissant, et j'ai l'impression qu'il commence à peine. Donc bon, c'est un peu pessimiste. Mais en tout cas, c'est quand même positif de voir des chanteuses aujourd'hui avoir envie de se serrer les coudes plutôt que de rentrer dans les clichés habituels de rivalité féminine. Et en attendant, elle dérange quand même les hommes, et ça, on aime bien. On a Taylor Swift qui se fait huer dans un stade récemment parce qu'elle est allée soutenir son petit ami qui est footballeur américain. On sent quand même que il n'y avait pas qu'une question de football, quoi. On sent que c'est aussi pour tout ce qu'elle représente, parce que Trump derrière n'a pas été hué quand il était dans le stade, et d'ailleurs il était bien content de voir que Taylor Swift s'était fait tuer. Donc je pense que leur existence en elle-même, de toute façon, elle est politique, et si elles arrivent à continuer à exister publiquement, déjà ça offre quand même un, peut-être pas un rempart en tout cas, parce que c'est pas suffisant, mais une autre possibilité, une réponse en tout cas.
Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. On pourrait encore rester des heures. On avait d'autres thèmes, mais voilà, c'est pas grave.
On fera d'autres tables rondes.
Exactement. Pour continuer à vous suivre, les filles, je pense que vous avez des petites actus en cours. Vous êtes en train d'écrire, je crois, toutes les deux, chacune de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez ?
Je travaille encore sur Taylor Swift en ce moment. Je suis en train de finir d'écrire une biographie qui va sortir chez Le Mot et Le Reste. Normalement, si tout va bien, le mois prochain.
Wow.
Parce que je suis un peu en retard. Voilà, mais je bosse notamment sur ça. Et sur un livre pour enfants qui sortira plus tard dans l'année dans la collection BAM chez Gallimard Jeunesse, sur les grandes figures féminines dans la musique pop.
Super. Super. Et toi, Louise ?
Moi, je travaille sur mon prochain livre fouille la violence des mères. Voilà. À l'égard des filles.
Mais qui se retrouve aussi dans la pop culture, d'ailleurs. Donc, très intéressant.
Donc, merci pour votre présence. On va faire le changement de plateau. Et puis, vous pourrez éventuellement, bien sûr, avoir quelques points de discussion avec Louise et Morgane qui restent avec nous. Merci beaucoup.
Merci à toutes et tous.